Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le mardi 8 mai 2018 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 41e volet de l'Entrepode. Un entrepode terriblement délicieux, nous allons essayer de vous faire frémir les papilles, essayer de vous procurer un orgasme culinaire, car en ce jour, nous vous proposons un menu en 7 plats qui devrait vous faire saliver. Pour commencer cette grande messe de la gastronomie, je vous propose en amuse-bouche une verrine de poésie ô combien terne et morose, surmontée d'une légère touche de cyanure, accompagnée d'une déprimante petite chanson de Vincent Delerme, afin d'accompagner votre dernier souffle de vie. J'ai nommé Christophe.
Hello.
Pour aller avec cette petite mise en bouche, quoi de mieux qu'un vin légèrement pétillant, assez criard, aux accents doux et terriblement piquants à la fois. Sa robe sensuelle, rehaussée d'attaques auditives, ravira vos papilles et vous fera saigner les oreilles. J'ai nommé Didouille.
Salut tout le monde.
En entrée, je vous propose une assiette caramélisée de questions complètement hallucinantes sur lit d'incompréhension totale et des réponses subjectives aléatoires à fonctionnement complémentaire. Moi non plus, je n'ai rien compris à cette entrée, j'ai nommé Lulu.
Hello.
En plat de résistance, je vous ferai suivre une délicieuse blanquette de quiz avec un accompagnement d'hurlements primaires façon incontrôlé, j'ai gagné, sur un lit de professionnalisme frédissime moucheté de petites graines de folie dont il a le talent, j'ai nommé Freddy.
Salut.
Afin de faire passer toutes ces bonnes petites choses, quoi de mieux qu'une boule de glace très légère, au goût tendre et raffiné, façon belle du printemps, parsemée de petites fleurs du jardin. Mais attention, n'allons pas tomber dans le trop peu. Par-dessus, quoi de mieux qu'une grosse rasade de calva à 65 degrés, car il faut qu'elle tienne debout la bougresse, mais je m'égare. J'ai nommé Starlette.
Ouais.
Le plateau de fromage, je vous propose deux sortes bien de chez nous. Pour commencer, le frégin. Des petites notes subtiles du cru, avec une vraie teneur en bouche, un accent très prononcé, une subtilité à la hauteur de chacun, où tout le monde en prendra un petit coup. Et le petit nono, un tout petit fromage au caractère tranché, compact sur lui-même, pas très grand, limite fade, mais terriblement attachant dans ton Happy Meal. J'ai nommé Arnaud.
Bonjour.
Et enfin, excusez-moi, pour finir ce repas, quoi de mieux que la trilogie de macarons crème de l'abbaye de Wisdom avec sa passionnante farandole entrepodienne accompagnée de sa bonne humeur du chef. Et je vous redonne la toque pour nous emmener dans cet espace culinaire. Et là, en fait, j'ai levé les yeux et je sais plus, j'improvise. C'est n'importe quoi. Donc c'est à toi, mon Nico. C'est parti.
Merci Marius, dis donc, quel talent.
Allez, on voit la purée.
Bois un coup, parce que là,
en tout cas, c'était bien servi.
Et ben voilà, on se retrouve tous ensemble. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus tous là.
Ah, ça fait du bien. Tous ensemble.
C'était bien, Rennes.
Ouais, là, c'était très bien, Rennes.
Hein.
On avait de la place.
Surtout sans toi, en fait. Finalement, on a passé un moment extraordinaire.
On a eu un bon.
Ils avaient l'air
vachement bien.
Ils avaient l'air un peu con quand même.
Ah, bah, c'est des Rennais.
Ça va, pas trop de viande saoule?
Bah, moins que là où t'étais, toi.
Oui, certainement, moi, oui.
Ça, d'ailleurs, il n'y avait pas d'alcool.
Ça, c'est un petit peu
rattrapé le soir.
T'as laissé ça dans le livre d'or, t'aurais dû le mettre quand même.
Il n'y avait pas d'alcool, mais il y avait des choses à fumer quand même à l'extérieur.
Ah, ça. Ouais.
Ça balance.
En tout cas, on s'est bien amusé.
C'était très sympa.
J'en ai pas profité, mais.
C'est vraiment rigolo.
Et puis, j'ai gagné un lot, moi.
Oui, un truc de taboulé.
Une barquette de taboulé. Ouais.
Ah, ça, et puis rencontrer des poditeurs du Luxembourg.
Ouais, c'est rigolo.
C'est rigolo.
De partout.
De l'Entrepode.
Oui.
Ah oui.
Les Suisses.
L'Europode.
Des gens du Sud.
Le Tarn, ouais.
Tu sais, en dessous de la Loire, là, des choses très. Enfin, non, mais c'était vraiment sympa.
Scène,
franchement, c'était bien.
Et du Havre.
Et du Havre.
De Grandville.
Et du Dieppe.
Bon, on va pas te faire les 70 personnes qui étaient là, mais.
Il y avait des Rouennais, y avait-vous?
Puis on s'est fait un bon resto, les brocanteurs à Rennes.
Et ça, c'était sympa. Et ça nous a permis de passer une petite soirée sympa à Rennes tous ensemble, là. Vraiment cool.
Ouais.
Et donc, ça fait déjà un mois quand même Rennes. Hein, donc, ça passe vite, comme le temps passe vite. Mais on reste quand même dans des contrées reculées pour cet enregistrement, puisque nous sommes accueillis chez Ludo et Didouille. Nous sommes dans la.
Bonjour, tout le monde.
Ça va bien.
Pardon, désolé, je fais mon Michel Leb.
Il est encore la mode.
Le noir,
ici,
là. Je croyais que c'était le roumain, moi.
Le roumain noir.
Dans une petite bourgade de la vallée de l'Andelle.
Magnifique, en tout cas.
Oui, il fait très beau.
Merci de nous accueillir, il fait très très beau. Et en tout cas, on commence déjà à perdre un petit peu le fil de l'émission, donc c'est mal barré. Mais on reprend nos bonnes habitudes. On a un épisode sans invité cette fois-ci, donc ça veut dire qu'on a que des rubriques des membres de l'Entrepode. Mmh. Ensuite, le quiz de Freddy. Oui. C'est bien ça.
Aujourd'hui, un quiz
très
drôle puisque le thème sera la décision des États-Unis concernant le nucléaire iranien.
Ah, je me demandais quand t'allais en parler justement.
Pas la merde.
Je te remercie. Et puis on terminera avec nos coups de cœur ou nos coups de gueule en 60 secondes comme d'habitude.
Yes.
Donc pour commencer, à qui donne-t-on la parole? Peut-être à quelqu'un qui a pas parlé depuis longtemps, qui a pas fait une chronique depuis longtemps.
Ah ouais.
Ouais.
Allez.
C'est génial quand ça commence par moi.
Marius, Tu te sens à l'aise en plus, je suis sûr.
Ouais, carrément, je suis à fond là.
C'est tout de suite, on n'est plus à Rennes, il n'y a plus un ingé son, c'est vite le vent. As-tu vu les belles canouilles? As-tu vu les belles canouilles? Les belles canouilles dans le marécage? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu?
Il est vachement bien quand même, c'est moi qui l'a fait. Moi j'aime beaucoup.
On l'entend pas souvent mais il nous fait rire à chaque fois.
Donc moi je voudrais revenir avec une émission qui est passée en direct. Donc c'est le nom c'est En Direct avec Edouard Baird, une émission qui a été diffusée sur Paris Première le 12 avril dernier. C'est une émission un peu fouillie avec un débat qui est posé. Où va la France? Tout ce qui est à venir n'est-il pas pire que ce qui a déjà eu lieu? Avec autour d'Edouard Baird une triade d'invités, François Rollin, Alexandre Astier, Alain Chabat, François Damiens, tout ça en direct dans une brasserie parisienne où tout a été préparé, mais surtout, à mon avis, non préparé. Donc, et c'est là que c'est vraiment. J'y viendrai après là-dessus. C'est vraiment là que c'est intéressant.
Tu vas voir qu'il va nous comparer, Edouard Baird.
Non, mais je me suis vraiment.
Là, il va dire que ça ressemble à l'ambiance de l'entreprise.
C'est intéressant pour ça, en plus, parce qu'on pourrait tomber dans le sketch complet, mais en fait, il n'en a rien. Au début, on a un faux débat qui va attaquer sur le thème que je vous ai. Indiqué tout à l'heure, et en fait ça part tout de suite sur autre chose, ça part complètement dans tous les sens. Donc on débute le débat qui est complètement loufoque, il y a du monde qui arrive, il y a des invités qui sont là, qui sont des restaurateurs, qui vont parler d'un projet mais qui vont être coupés par une autre personne. C'est un foutoir monstre.
Alors, ça, c'est pas nous par contre.
C'est
à la Edouard Baird, quoi.
C'est à la Edouard Baird. Moi je connais pas bien Edouard Baird, donc je l'ai découvert surtout sur cette émission là et j'ai pas décroché. Pour écrire la rubrique que je suis en train de lâcher, que je vais pas lire, donc je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai pu le regarder encore une fois, c'était vraiment pas mal.
Donc c'est dégueulasse.
Entre les invités lambda donc, qui viennent pour proposer, pour présenter une association des restaurateurs atypiques qui ne vont jamais au bout de leur intervention, une dame qui fait du couscous qui va être arrêtée par Alain Chabat sur la fin de l'émission parce qu'en fait il va se pointer complètement à la fin, ils vont le chercher pendant toute l'émission, c'est un bordel à n'en pas finir. On a un vendeur de journaux à la criée qui va venir, un mec vraiment, un réel, mais qui va plus vouloir partir en fait. Donc il va se présenter, ensuite il va être là, ils vont pas pouvoir le faire partir, c'est tout un bordel. Et là tu vois le régisseur plateau donc dans le bar qui essaye de faire quoi que ce soit, de le tirer un peu par la manche. Le mec qui est là qui sait pas, c'est un grand bordel. Il y a des lives, donc on a un live de Yael Naïm qui va se prendre un gros coup de buzz son, je sais pas comment on peut l'appeler. Elle va faire un saut quasiment de 10 cm sur sa chaise. Et ensuite, on a donc Ours, que vous allez découvrir, là, que j'ai découvert dans cette émission-là, et qui a fait un morceau en direct qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné envie d'aller voir plus loin. Donc, petite transition sur Ours, hein, qui est sur son troisième album. Qui nous présente un album avec 12 morceaux, qui va vous faire voyager avec des musiques vachement agréables. L'album est complètement, l'album est très cool, c'est cool à écouter quoi. Et moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est ce que vous écoutez en arrière. Et donc pour revenir sur le truc, c'est que moi en voyant l'émission, je me suis vraiment revu au début de l'Entrepod où c'était un peu le bordel, mais c'était réellement comme ça. Et en regardant, j'ai vraiment pris un panard complet à regarder.
C'était cette émission ou...
Oui.
T'as un problème de micro, Starlet, non?
Bah, donc,
ça... En fait, ça me parle, mais le micro est de l'autre côté, donc forcément, ça passe pas. Ouais, c'était la première.
Je passe un nœud.
Sur Paris Première. Pour l'instant, je peux pas dire que ça va continuer. Malheureusement.
C'était vraiment un seul épisode.
Moi, j'aimerais que ça continue, parce que un gros bordel.
Et tu crois vraiment que c'était improvisé? Parce que j'allais te demander. Généralement, est quand même.
Il y avait de l'improvisation. Mais très sincèrement, il y avait quand même, à mon avis, hein. Après, faut la regarder. On peut la retrouver sur YouTube. Ouais. Moi, je l'ai retrouvée un peu partout. Regardez-la, dites-moi.
Ça s'appelle En Direct, t'as dit.
En Direct avec Edouard Baird.
Et c'est sur quelle chaîne?
Paris Première. Et il y a un téléphone, là, 12 avril. Pas loin des... Marius, tu as...
Donc le téléphone, pour ça, c'est le 02... Allez, bonne fille, ça.
Bon,
j'avais présenté Edouard Baird en coup de cœur il y a un an à peu près pour ce qu'il fait sur Nova. Ça ressemble pas mal à ce que tu présentes à la radio.
Peut-être que je me suis fait avoir.
Et
alors, comme je
à l'époque,
pas,
j'avais présenté le spectacle.
Ce serait vraiment étonnant, Marius.
La vie extraordinaire de Luigi Prisotti, je crois, un truc comme ça. Je t'ai passé le DVD, est-ce que tu l'as vu ou pas?
Non, il faut que je le regarde.
Ça devrait
du coup,
te plaire parce que
regarder,
c'est exactement ce côté foutraque, pseudo-improvisé, mais hyper cadré en fait. C'est ça qui est génial en fait. Ce qui est assez fort, c'est que ça donne l'impression, l'illusion de l'improvisation tout en étant. Enfin, en fait, tu peux pas partir sur un truc complètement.
Oui,
improvisé
non, mais
comme
je
ça.
Pense, parce qu'il y a un moment où il dit bah tiens, il y avait un conducteur, et c'est vrai qu'il reprend le conducteur et il balance le conducteur. Et en fait, on part sur des invités, on part sur tout un tas de choses. Et en fait, il y a Laurent Chebila de la revue Schnock qui vient présenter. Ouais. Donc, tu vois, ça m'a fait penser à toi, Freddy. Tu vois,
je retiens quand même. Je suis en train de lire le Schnock avec Pierre Tcherniak, qui est formidable.
Je retiens quand même des choses de l'Entrepone. On dit tout le temps que je suis pas là, mais si, des fois, je suis là. Ça m'arrive. Et donc, on part sur les invités, on parle dans tous les sens. Mais peut-être que je me suis fait avoir, mais j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment plaisant à regarder.
Edouard Baird, il a ce côté de façon super. De toute façon, je pense qu'il mélange les deux à la fois. Il sait où il va, mais en même temps, il peut partir dans une digression. Il a aussi un talent d'improvisation.
Oui, ça fait quand même bizarre que tu compares nos premiers numéros de l'Entrepode à une émission d'Edouard Baird récente.
Ça serait mieux de dire si ça pouvait évoquer les derniers de l'Entrepode, ce serait plus flatteur.
Ce qui veut dire, c'est que nous, on s'est professionnalisés. Eux, ils ont encore du boulot à faire.
Ouais, un truc comme ça.
Oui, Freddy.
Est-il nécessaire de préciser, mais Ours est l'un des fils d'Alain Souchon.
Ah oui.
Oui.
Je savais pas. Pardon.
Fils qui sont, la partie dans la musique et Ours est l'un des deux.
D'accord.
Ours a fait la première partie du concert de Zazie quand elle est venue au Zénith de Rouen et j'ai découvert beaucoup, Ours hein. Que j'ai mis sur mon iPod, mais ça plaît pas à tout le monde.
Mais moi, j'ai bien aimé.
Ludo a un regard entendu.
Ça me fait penser à Vianney, un peu.
Pas du tout.
Ah non, pas du tout. Là, ça me fait penser à ça.
Ce que j'ai entendu, ça me fait plutôt penser à du M, ce qu'il fait maintenant.
Oui, ça fait surtout moi. Alors que moi, ça me fait surtout penser à de la merde. En fait. Non, je déconne, je ne connais pas.
Non, je me rappelle des gars qu'on a croisés à Rennes quand tu parles de.
Pas du tout, je plaisante.
La version 4 de
Zelda. Ours, si tu m'entends, et je suis sûr que tu m'entends, c'est uniquement purement gratuit, je ne connais pas ton œuvre.
Et je ne veux pas la découvrir.
Tu la connais un petit peu quand même.
Et donc oui, Marius, alors l'illusion c'est du vrai direct ou c'est l'illusion du direct?
C'était du réel. T'étais sûr? Non, c'était du vrai direct.
Ce qui prouve quand même qu'il y a quand même forcément quelque chose d'écrit.
C'était du vrai direct.
Même quand tu l'as revu.
Ce que tu veux dire que c'est un. Ah bon?
Et du coup, on peut revoir ça où?
Eh ben, je pense qu'on peut le trouver sur YouTube. Je pense qu'on peut le trouver.
Toi, tu l'as vu sur quoi par exemple?
Moi,
sur YouTube
je l'ai vu sur.
Vimeo?
Je sais plus, un truc. Télé 7 jours, je crois. Ou non, sur Canal Plus. Non, mais il y a Télé 7 jours
télé
sur.
Télé 7 jours?
Ne m'emmerdez pas dans
les. Télé 7 jours replay, tu connais?
Voilà,
pas
c'est ça.
C'est vrai que ça existe ça?
Non, mais c'était sur Canal Plus. J'ai un écho, moi.
Moi aussi, ça écoute.
Il y a un écho.
Allez, petit pilote, montez.
Depuis qu'on a posé les assiettes de gâteau, non?
Je sais pas.
Non, c'était fait de direct, me semblait vrai, parce que pendant un moment, ils vont voir Alexandre Astier qui arrive en DS dehors, il pleut des cordes, il pleut vraiment des cordes, et là, t'as l'ingé son et le régisseur qui arrive, qui fait bon, là, tu arrêtes, parce que sinon, on va casquer la caméra qui vaut une blinde, donc vous rentrez à l'intérieur, tu vois, c'est un peu vraiment le bras. Il y a un gros écho quand même.
Ouais. Grave. Oh, alléluia. Non, ça marche.
Attends, il va nous refaire le père, je sais plus.
Oh, qu'il est beau.
Marius, c'est bon ou tu as encore des choses à dire ou pas? Pour repartir.
Non, mais c'était sympa pour repartir. J'ai passé un super moment, même en regardant deux fois l'émission, j'ai passé un super moment. Si vous pouvez.
Elle dure combien de temps?
Et 2 heures. Ouais. Quasiment 2 heures.
T'as vraiment ça à foutre quand
même. La question est essentielle.
Il l'a revu
trois
fois.
Mais au fait, elle dure combien de temps?
Mais j'espère que ça va continuer.
C'est important parce que il l'a vu deux fois. Il a donc passé 4 heures de sa vie à regarder cette émission-là. Donc j'imaginais que.
Plus une bonne demi-heure à écrire.
Il aurait pu bosser de la batterie, c'est ça que tu veux dire?
15 bonnes minutes à nous en parler.
Il aurait bossé sa batterie et puis voilà, il fait quelque chose digne de ce nom.
Non, Ludo, il est agressif aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, Didouille.
Après, vous me demandez pourquoi je fais pas de chronique.
Ah, il a les bourses.
Non, tu sais, c'est du cancer.
T'es content? Mais c'est ce que tu voulais.
Mais ce matin, je vais toucher. Yes. Ce matin, je vais toucher les tétons. Mais non, j'ai mauvaise haleine. Donc.
Ça restera. Let's go. En tout cas, oui, mais merci Marius. Hein,
mais ça fait plaisir.
Ça donne envie. Ça fait plaisir. Désolé de te parler pendant que tu manges. En fait,
il est en train de manger le marbre. Ah,
ouais, marbre au chocolat est trop bon. Je sais pas qui c'est. C'est Freddy, ça encore.
Ouais, Madame la chèvre.
Madame la chèvre.
La boulangerie de mon quartier.
Ah, eh bien,
ça s'appelle vraiment Madame la Chèvre.
Attendez, je vois qu'on a une petite interruption impromptue.
Quel talent.
Oui, non, moi, celui que j'aime bien, c'est Freddy. En disant, il a une plume et puis une voix un peu comme la mienne. Et puis il paraît qu'il a un petit physique. Voilà. Bon, vous lui donnez mes coordonnées, hein. Allez, ciao.
Voilà, c'est un des premiers messages qu'on reçoit sur notre répondeur, Freddy. Comment... Tu t'es mis à ton avantage aujourd'hui en plus.
N'est-ce pas?
Oui, t'as une très très belle chemise.
Je veux bien, je veux bien les coordonnées. Mais on veut...
T'as raison, ça
c'est monsieur, c'est Jean Chou.
Jean, ah, c'est pas une dame.
C'est, non, c'est Jean Chou,
ah,
Tess.
Bon. Bah,
c'est Jean Chou, Tess qui a laissé un message.
Je vais prendre quand même.
Je passerai ses coordonnées. Merci. Bon, on sait jamais, hein, s'il y a moyen. En tout cas, bah, faites comme Jean Chou, hein, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre répondeur.
C'est avec la nouvelle appli, là, sur le site.
Exactement. Donc,
il y en a eu beaucoup ou pas?
Bah, je vais voir. On va
à part les tiens.
Parce que c'est quoi la nouvelle appli?
Ah, t'as pas écouté Podren, non, mais t'as pas lu les
Podren, toi.
Il lit pas les emails, il reçoit rien.
Il était très premier de
ça. Donc il y a une application de répondeur sur notre site web.
Marius. Bon,
et oui, les gens peuvent nous laisser un message de 90 secondes.
Ah, c'est énorme.
Et comme Jean Chou.
Bon, mais bon. Ah bah merde, bah non, bah,
donc voilà. Ça vaut le coup. Donc,
on peut parler aux chroniqueurs et tout.
Bah, les gens peuvent nous laisser un message, que ça soit quelque chose de sérieux ou de pas sérieux.
Ah bah je vais l'appeler moi.
Tu vas t'appeler en fait.
C'est quoi le numéro?
Dans le surréalisme plutôt. Donc Marius sur le site, sur la gauche, il y a laisser un message.
Ok, ça marche.
Voilà, bah, ça va? Bon.
D'ailleurs, sans le portable, c'est ça prend beaucoup de place.
Ah oui, c'est vrai. Donc, on va voir si Marius arrive à laisser un message, c'est que tout le monde peut le faire. Donc...
sur la page de l'Anthropode.
On peut le faire en live, peut-être.
Tu veux l'adresse du site internet aussi, non?
Eh bien,
anthropode.fr.
Je propose à Christophe de prendre la suite.
Oui, je vais essayer de cautionner, de faire d'enchaîner. La caution sérieuse.
Bon, ça veut dire quoi, ça? Il y en a d'autres qui peuvent faire des choses sérieuses.
Ça veut dire qu'on va encore se faire chier.
Voilà.
Et c'est ça. Que c'est du tout qui s'intéresse. Et c'est ça, du tout, c'est important.
Alors, je vais vous parler d'un livre étonnant.
Ah oui, mais alors si tu nous coupes à chaque fois nos vannes.
Tout ça pour pas qu'on puisse te vanner.
Ouais. Ouais. Surtout, à part Freddy et Marius qui n'ont pas écouté Podren.
Bien sûr, j'ai écouté.
Ces garçons sauvages. Écouté,
moi, il y a un moment,
c'est ça. Et donc, c'était une petite escapade. Ah, et donc là, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas morose, triste ou dépressif. C'est juste en fait le deuxième volet de la trilogie. Entamé par Pierre Lemaitre, Couleur de l'incendie, donc vous avez sans doute lu ou vu Au revoir là-haut.
Non.
Ouais,
ni vu ni lu.
Non, surtout,
ni
vu, tu nous spoil pas, je suis en train de le lire.
Lupivu.
Lequel?
Au revoir là-haut.
C'est assez rare.
Ah non, je ne parle que de Couleur de l'incendie.
D'accord.
Donc, prix Goncourt 2013. Hein, donc...
Après la mort des personnages du premier roman, donc en fait, on reprend à partir de là.
dont certains, donc j'allais dire, ont probablement vu le film.
Non.
Ce deuxième volet donc, de Pierre Lemaitre était très attendu et évidemment dès les premières pages c'est tout simplement passionnant de bout en bout. Donc un petit pitch. Alors peut-être
chocolat framboise.
Peut-être pas osé
faire. Écoutez, c'est ça que t'es en train de me dire.
Peut-être.
Bon,
peut-être.
Non, ok, je raccroche.
Mais c'est juste le.
C'est pas grave.
C'est juste essayer de faire le raccord entre le tome 1 et le tome 2.
Non, on te quitte pendant quelques
minutes. C'est le tome 2, mais le tome 3. C'est le tome 2.
Tome 2. Tome 2.
Suis Marius.
Va avec les autres.
Assure-moi le.
Ça dure pas longtemps. Hein. Donc dès l'ouverture du livre, hein, le ton est posé, nous sommes en 1927 et on assiste aux obsèques du grand banquier Marcel Péricourt, le mania de la finance qu'on retrouve évidemment dans le tome 1. Sa fille Madeleine est évidemment à la tête de l'empire financier. Donc on suit cette fois-ci donc, la sœur d'Edouard et Madeleine, donc à la tête de cet empire financier. Mais malheureusement, évidemment, le destin va en décider un petit peu autrement parce qu'il y a un événement tragique qui va placer cette pauvre femme sur le chemin de la ruine. Donc ce roman, c'est donc l'histoire de cette femme qui va tout perdre, ou presque. Presque parce que, en réalité, malgré le fait qu'elle soit embourbée dans un homme, dans un monde d'hommes aux intentions malveillantes...
Embourbée dans un homme, c'est...
Et il y a un petit peu de vrai en même temps, c'est pas un lapsus. Mais j'en dirai pas plus. Donc en fait, elle évolue dans un monde de trahison, de cupidité, de corruption, mais aussi de l'ambition de son entourage. Et donc elle va résister, elle va faire même plus que résister, puisqu'elle va reconquérir, Elle va tout reconquérir et recommencer sa vie quasiment depuis le début. Et pour cela, elle va déployer des perles d'intelligence, d'énergie, mais aussi de machiavélisme pour survivre, et reconstruire sa vie. Et au-delà, en fait, de cette femme, et en tout cas à travers elle, c'est la condition de la femme entre les deux guerres qui nous est dressée, et plus indirectement aussi le récit d'une émancipation féminine à cette époque-là. On est dans les années 30. Couleur de l'incendie, donc, c'est donc une affaire de vengeance, mais pas que, puisque nous sommes plongés dans la France d'entre-deux-guerres, dans ce monde du capitalisme naissant, va-t-on dire. Donc, parce que ce qu'on comprend au travers les couleurs, le titre et les couleurs de l'incendie, c'est que, en fait, finalement, ce sont les prémices de l'enlisement de l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en toile de fond de ce récit, on a des éléments historiques réels, comme ça commence par la crise de 1929, avec le fiasco de certaines faillites bancaires, boursicotage et autres. Et puis, on entre aussi un petit peu dans le nazisme naissant, qui va petit à petit ronger l'Europe avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 et qui va égrener son message antisémite et contaminer petit à petit les esprits à l'aide d'une presse complètement complice et corrompue. Donc au cœur de cette instabilité géopolitique et économique se tient donc Madeleine qui va refermer son piège tel une veuve noire sur tous ces traîtres, en tout cas tous ces gens qui l'ont trahi. Dans ce voyage donc... dans le pays de la finance et du complot, le plaisir est vraiment permanent car tous les personnages, et on en croise plein de nouveaux, sont délicieusement décortiqués et habilement fouillés. Du traître le plus abject jusqu'à une espèce de castafiore, une cantatrice à la voix cristalline qui est...
C'est pas Marguerite
qui est complètement,
tu nous as déjà
qui
parlé.
Qui est complètement déjantée, mais c'est pas loin. En tout cas, c'est juste riche d'inventivité et de drôlerie. Mm-hmm.
Donc c'est un sujet qui est dramatique, mais qui est traité sur le ton un petit peu plus léger.
Oui, enfin c'est même pas dramatique en fait. Hein. C'est l'histoire d'une vengeance.
Mais ce que tu nous expliques depuis le début, c'est quand même un contexte un peu compliqué.
L'échelle du dramatique chez Christophe, c'est pas la même que chez
c'est
nous.
Vrai, en fait, non là c'est plutôt sympa.
Moi ce que je trouve de dramatique en fait, c'est le la toile de fond, c'est-à-dire
Le contexte. La nana qui se fait quand même spolier tous ses biens, qui se fait trahir de partout, qui est.
Ouais, mais je peux pas trop en dévoiler, mais
non parce que moi je vais le lire du coup.
Il y a une raison pour laquelle elle se fait spolier aussi.
D'accord.
C'est-à-dire que voilà, elle est pas forcément, elle vient pas du monde de la finance. Elle s'est laissée porter pendant des années par son gentil papa, etc. Ouais. Et donc et puis l'événement tragique qui la secoue va aussi l'enliser quoi.
D'accord.
Est-ce que le personnage qu'interprétait Dupontel est toujours
C'est ce que j'allais lui demander.
Là, il va spoiler s'il le dit.
Eh ben non, justement. Ouais. C'est ce que j'allais y venir en fait. C'était ma fin, mais je peux t'en parler maintenant. C'est-à-dire que c'est un roman qui peut se lire indépendamment du premier. C'est-à-dire que même si on n'a pas lu le premier...
Il n'y a pas du tout, on ne voit pas Albert Maillard dans le prochain.
Le seul lien qui fait... le seul lien entre les deux volets, entre Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie, c'est la famille Péricourt. C'est
donc celle qui reste. Dans le premier.
Mais dans le premier, elle avait un second rôle, vraiment. Elle était quasiment effacée, quoi. C'était la femme du méchant lieutenant Pradel. Mmh,
ouais. D'Aulnay Pradel.
Ouais. On sent quand même que c'est pas un si petit rôle que ça, quand même.
Dans le
on la voit pas beaucoup.
Elle est quand même au second plan.
Elle est au second plan.
Oui, mais on sent que dans l'avenir, elle va pas rester au second plan.
Ah bah non, puisque là,
dans l'avenir, elle va pas rester au second plan.
Parce qu'elle.
Justement, dans le tome.
Il y a toujours de l'écho, Nico. Là.
Et puis c'est de l'écho qui déforme la voix cette fois-ci. C'est bizarre.
C'est un écho lourd.
Un écho de gros con. Là.
J'ai activé l'effet écho de gros con. Merde.
Et donc c'est le personnage de Madeleine en fait qui fait le lien entre les deux tomes en fait. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas lu le 1, vous pouvez tout à fait démarrer par le tome 2 sans problème quoi. Voilà, enfin je voulais le dire qu'à la fin, mais je le dis maintenant, c'est pas grave. En tout cas, ça a été un vrai régal cette fresque romanesque avec en arrière-plan la complexité des années 30 que j'ignorais. Enfin, je suis pas spécialiste en histoire, mais en tout cas j'ai appris plein de choses. Et je trouve que tout l'art de Pierre Lemaître, je trouve qu'il porte assez bien son nom.
Pierre, oui.
tient à sa façon de maintenir le rythme.
D'une main de maître.
Il n'y a pas de temps mort.
Bravo.
Exactement.
Je crois que tu peux t'arrêter là-dessus.
Alors là, Marius.
Il n'y a pas de temps mort. Il aligne des phrases fluides, des rebondissements intelligents.
Arnaud, t'as loupé plein de trucs, faut qu'on te raconte.
De broder avec... de broder avec vitalité une trame qui est vraiment brillante, et l'ensemble est servi par des connaissances historiques assez pointues de ce siècle, en tout cas un petit peu égaré entre deux cataclysmes, hein, la guerre de 14 et la guerre de 40 qui va arriver. Il y a un troisième volet qui est en cours, puisque c'est une trilogie, qui se situerait... Je me marre tout seul parce que j'attendais une vanne, mais finalement...
Non, non. Mais tu l'as fait toi-même, on a même pour
les... Tu nous coupes le chic. Ouais.
Et donc, il se situerait dans les années 40. Et il y a des espèces de murmures, des espèces de rumeurs qui disent qu'il...
Les bruits de couloir.
Ouais, c'est ça. Exactement. Qu'il envisagerait, en fait, de pousser sa saga jusqu'au tome 10.
Non.
C'est-à-dire...
Ce serait plus une décalogie,
jusqu'à nos jours.
Ouais, une décalcologie.
Décalcologie. Putain, décalcomanie. Bon,
mais voilà, ça reste une rumeur. L'idée, c'est qu'il, pour l'instant, c'est une trilogie. Après, il y a des gens qui disent, voilà, peut-être qu'il va arriver jusqu'aux années 2020.
Les gens qui disent aussi, hein, c'est pas son effet. Hein.
Il y en a qui disent que les huiles essentielles, c'est mauvais pour la santé. J'ai lu ça quelque part. Mmh.
Oui, carrément, donc, c'est vrai.
Ah, c'est Marius qui dit.
C'est moi qui l'a dit.
Et donc, pardon. Je disais donc que c'est on peut...
Bon, t'as
donc,
fini, là, non
on peut, je répète pour les deux autres qu'on peut lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1.
Ah, d'accord.
Parce qu'il y a un seul personnage qui fait le lien entre les deux.
D'accord. En tout cas, j'aurais dit exactement la même chose dehors. Il fait oui, on arrive.
C'est vraiment... ouais. En tout cas, c'est vraiment un roman qui colle au doigt, comme on dit. On
ah, peut, c'est joli, ça.
On ne peut plus s'en empêcher.
C'est Playboy aussi. Ouais,
deux magazines aussi, qui sont très pratiques.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand ça colle au doigt, dernièrement, ça craint. Quoi.
Oui, ça
mais quand même, tu veux dire le titre, au revoir, là. C'est vraiment ça ou quoi, non?
Non, non, là, le titre, c'est Couleur de l'incendie. Je sais pas si...
Ah oui, bah c'est pareil. C'est bon, hein.
Ça, c'est quand t'as une chaude pisse, ça.
S'il y a un lien avec la colle. Mais en tout cas, on peut pas s'en détacher. Et c'est juste jubilatoire.
Non, mais...
moi j'ai adoré ce troisième tome, ce deuxième tome, pardon, ouais. Et j'attends le troisième tome avec impatience. L'idée, en tout cas, c'est que j'espère un jour, enfin j'espère peut-être que Monsieur Dupontel nous écoute à l'instant même.
Je pense.
Certainement.
Ah bah forcément. Hein,
je pense aussi. Déjà. Vous êtes tous d'accord avec moi.
Oui. En tout cas, en replay sur Télé 7 jours.
Et qu'il aura la magnifique envie de s'emparer de ce deuxième volet pour faire un film à la hauteur de ce qu'il a pu faire pour Au revoir là-haut. Avec toujours évidemment les conseils de Pierre Lemaitre, parce qu'il a quand même pas mal aidé.
Il a travaillé avec lui.
Ils ont vraiment travaillé ensemble. Et donc là, je trouve que ce deuxième volet se prête magnifiquement à une suite, aussi bien une suite cinématographique qui serait...
De la même ampleur que le premier.
Voilà, de la même valeur, de la même ampleur que Au revoir là-haut.
Qualité.
Voilà, même qualité. En tout cas, moi, j'ai adoré ce livre. Je l'ai vraiment dévoré de bout en bout.
Alors, on a une auditrice à Grasse qui aime beaucoup ta chronique et qui, en plus, se trouve être une fan absolue de Pierre Lemaitre.
Ah bah,
dont elle a lu tous les livres. Ouais. Donc, je pense que ça lui plaira doublement.
On lui fait un bisou.
Mais en parlant de cette auditrice, ça me fait penser à quelque chose, justement, parce que ce que tu évoques là, ça me fait penser à ce qu'a écrit Ken Follett sur le siècle.
Le site de l'Anthropode.
Alors. C'est ça, mais ça,
j'aurais pu écouter parce que j'avais fait un autre livre là-dessus. Ça me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire de sorte de chronique un petit peu d'une époque, de la montée des différentes, factions, des différentes forces au sein du siècle précédent, vue sous le prisme d'une personne. C'est-à-dire, c'est une petite histoire dans la grande histoire. C'est vrai que souvent, ça marche vachement bien cette image-là, sans avoir le côté, scolaire qu'on peut avoir, où on nous donne des grandes masses et on comprend pas toujours les tenants et aboutissants et surtout ce que ça implique au quotidien. Là, on voit vraiment. À travers peut-être quelque chose d'un peu dérivé ou d'un peu, je dirais, qui peut paraître anecdotique finalement face à toute une histoire.
Attends, pardon, mais la mort de Gaston Mouchard à la fin du premier tome, elle n'est pas anecdotique.
Gérard Mouchard.
Gérard Mouchard.
Non, mais le premier tome, moi, je l'avais dévoré. Je l'avais réellement dévoré. Ouais.
Le
film.
Mal digéré. Tu les as relancés.
Le premier est vraiment une.
Bah, t'avais fait une chronique dessus.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'ai chroniqué en plus, non? Non, je suis bon. Et le film est une réelle réussite également. Donc, je vais m'emparer de ton deuxième tome.
Il est là, si tu veux.
Je vais te prendre ton tome
et puis. Je vais te prêter.
Mais je le veux bien.
Tu pourras dire en tout cas. Tu pourras dire.
Colle au doigt, fais gaffe, ouais.
Tu pourras dire à cette auditrice de Grasse qu'on lui enverra dédicacé, non pas par Pierre Lemaitre, mais par Christophe. Encore mieux.
Ouais, carrément.
Non, mais vraiment, il y a des choses très intéressantes. Et moi, j'ai été surpris, par exemple, au moment de la montée du nazisme, pour revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, que finalement, la France, à cette époque-là, dans les milieux intellectuels et journalistiques, on a failli basculer quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein d'intellectuels et surtout la presse, puisqu'il y a un espèce de journal qui soutient le fascisme, qui est en train de se monter. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange de la population qui prend fait et cause pour Hitler, quoi. Donc c'est quand même assez hallucinant, quand même.
Ouais, moi je trouve qu'on a un peu exagéré.
Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, non, mais tu as raison. Ouais, ouais, tu as raison. Puis après, bon, après, on s'étonne. Non, on s'étonne de rien.
En tout cas, si je peux dire un petit mot, on moque souvent la chronique de Christophe, mais j'ai lu avec un grand plaisir Le Maître des Illusions de Donat.
Ah, Donat Hart, oui,
c'était suis... super. Vraiment, merci.
Oui, je sais pas pourquoi on dit toujours que mes romans sont tristes.
Non, je rigole.
Bah, je comprends pas pourquoi on dit qu'on boit comme des tours.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Oh, je rigole aussi. Arnaud est pas petit.
Ça fait rire tout le monde.
Très bien. Bah, en tout cas, oui, merci Christophe. Moi, ça m'a carrément donné envie de le lire, effectivement, d'avoir une vision assez. Là, par contre, je parlais tout à l'heure de Ken Follett. Là, c'est assez française, donc qui nous touche forcément un petit peu.
Bah, ça nous touche plus parce qu'on a quelques petites connaissances, malgré tout, de ces années 30. Légères pour moi, mais. En tout cas, ça nous parle.
C'était
plus,
ta quoi. Jeunesse, quoi. T'étais encore jeune.
Ouais, c'est ça.
Les premières années, on les retient moins. Quoi.
C'est ça. Effectivement, en 29, j'avais 5 ans, je crois. Donc, j'étais pas très au courant des problématiques de boursicotage, tout ça, quoi.
Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Tu nous rappelles le titre, le nombre de pages, peut-être aussi pour avoir un ordre
d'idée. Alors, le nombre de pages, je ne sais pas.
Oh,
du tout.
Bah, voilà, le mec,
pourquoi
il est pas
vous voulez savoir le nombre de pages?
Non, juste pour savoir si c'est un gros pavé ou si c'est un.
C'est comme la question de Ludo sur la durée de l'émission.
Il nous donne la durée, du bouquin.
Par contre, si tu veux être précis, il nous faut le nombre de pages et la typo.
Alors. Ah, mais c'est pour savoir si on s'engage dans un
grand. Le premier, il y avait plein de pages et
la typo, je peux répondre, c'est du Verdana 11. Et le nombre de pages, c'est 534.
Ah bah c'est mort, tu le gardes.
Oui, mais c'est classique. Oh non, ça va, ça doit se lire vite.
Alors que Didouille, c'est du vert de blanc 12.
Donc, je rappelle le titre, Couleur de l'incendie, Pierre Lemaître aux éditions Albin Michel.
Right. Je vais peut-être l'acheter, parce que sinon je vais te le rendre tout salopé.
Et le popo, c'est le carré.
Surtout, il colle au doigt.
Bah, c'est pour ça. Déjà, il colle, ça me gêne, quoi.
On n'est pas obligé de s'essuyer la bite dedans à chaque fois, quoi.
Tu vois, avec ma chaude pisse, hein, c'est pas pire. Hein. Non.
Oui, mais c'est Freddy, c'est tout plus élégant.
Et puis surtout,
plus c'est... élégant.
Ça plus élégant, ouais, c'est pareil. On a vraiment des.
Je pense qu'il faut avoir des idées tordues en fait pour arriver à ce que ça devienne jubilatoire dans le sens où vous l'imaginez.
Tu sais, on a Ludo à la table. Hein, donc,
c'est vrai.
Ça prête à dire un truc, non,
Non,
mais comme tout à l'heure, il avait eu bourse pleine, effectivement, on aurait pu imaginer.
C'est Didouille qui a dit ça. Moi.
T'as eu bourse pleine.
Ah, petit rire gêné.
Ouais. Ça veut dire qu'il a été se soulager aux toilettes.
Bah, sur...
Il est en train de chercher le.
Devant leurs propres enfants.
Non, il s'est soulagé sur Marius.
Oh. Alors, pour être grammaticalement correct, je me suis soulagé dans Marius.
Oh l'horreur.
Il dit pas non.
Marius détourne le regard pudiquement.
Je n'ai rien senti.
C'est pour ça qu'il a la voix qui résonne.
Ah, t'as vu, c'est vous faites pareil avec Marius.
De quoi?
Vous avez pas suivi. T'as dit je n'ai rien senti. Oui. Moi je lui dis bah tu vois, ça fait pareil avec Marius.
Encore rire gêné.
On peut passer au sujet suivant.
Rire gêné. Bis. Très bien, bon, parlons de sujet suivant, ça va être donc à mon tour.
Mais pourquoi ?
Ça va peut-être moins drôle. Bah, tu veux reparler ? On peut te redonner le micro, il n'y a pas de souci.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Et donc, moi, je vais vous parler de quelque chose dont je parlais justement assez régulièrement à l'époque sur mon blog, Les Fonds de Tiroir, c'est-à-dire d'un manga, et que j'ai pas dû beaucoup aborder ici à notre micro. Et ce manga s'appelle Ajin, ou Ajin, je ne sais pas trop, semi-humain. Donc c'est un manga, une série qui est en cours. C'est un seinen manga, donc seinen, c'est les mangas plutôt pour jeunes adultes ou adultes. Qui est écrit par Gamon Sakurai et qui avait été initié également par quelqu'un d'autre et qui a disparu. Là, on est à la 12e tome au Japon. C'est une série qui est toujours en cours, qui existe depuis 2012 et qui a un succès assez retentissant avec plusieurs millions d'exemplaires vendus. Donc ça commence à être assez important. Oh, putain. Oh, le rire.
Faut expliquer, Nico. Parce que... ah
ouais. Christophe a de la concurrence dans le groupe. Christophe faisait le portrait de Freddy et là, c'est Delphine qui vient de s'y coller.
Mais c'est portrait de qui? C'est ça la question.
Je pense que c'est Freddy aussi.
C'est bizarre quand même. Mais...
à retrouver
à
en
la
photo.
Coiffure, hein. À la coiffure, c'est Christophe.
Et aux jambes, c'est Arnaud.
Ah, je
profite
quand même.
Au sexe aussi. Hein.
C'est pas très radiophonique.
Allez, enchaîne, bon courage.
Pardon, c'est vrai qu'en plus je faisais quelque chose de pas sérieux. Donc non. Et donc oui, je vous disais, il y a 12 tomes au Japon, 11 tomes en France, c'est-à-dire que la publication française et japonaise se suivent
allez,
assez,
ouais, c'est
de façon assez régulière. Donc comme je disais, il y a plusieurs millions d'exemplaires qui sont vendus, donc c'est quand même quelque chose d'assez une série à succès. C'est en France sorti depuis 2012. Le dernier tome, le tome 2015, pardon, je dis une bêtise. Le dernier tome, le tome 11, est sorti en avril dernier. C'est quelque chose, j'avais une série que j'avais commencé à suivre il y a quelques mois. C'était le libraire qu'on cite assez régulièrement ici, Pierre Julien, qui me l'avait conseillé en me disant ça, c'est quelque chose qui devrait t'intéresser. J'avais lu les deux premiers tomes. C'est quelque chose qui m'avait plutôt bien aimé, mais j'avais pas poursuivi immédiatement. Je trouvais que ça accrochait bien, l'histoire était intéressante, c'était sympa, il y avait de bonnes bases, mais ça me renversait pas au point de me dire allez, je veux avoir la suite tout de suite, etc., etc. Mais je le gardais quand même dans un coin de ma tête parce que je trouvais que ça posait vraiment de bonnes bases, un contexte, un concept et des choses intéressantes. Et là, boum. Il y a 3 semaines, 1 mois à peu près, je suis retombé dessus parce que j'ai vu qu'il y avait la suite, il y avait les 7 tomes qui suivaient à la médiathèque de Petit Quevilly. Donc je les ai tous pris, et là je suis tombé dessus, j'ai lu les 7 tomes dans la semaine. Impossible de lâcher le truc en fait. Je les ai complètement dévorés, et j'étais même très très frustré parce que la médiathèque n'avait que jusqu'au tome 9, et il y en avait 11. Donc dès que j'ai pu, je suis retourné à la librairie pour acheter les autres parce que je ne pouvais plus tenir, je voulais avoir la suite. Et
Starlet,
pour l'instant, je ne sais pas combien il y a de tomes.
Ça se lit dans l'autre sens, c'est un manga.
Je ne sais pas combien il y a de tomes de prévu. mais c'est assez frustrant. Parce que du coup, je suis arrivé à la fin du tome 11. Et le tome 12, je ne sais pas quand il sort. La suite, je ne sais pas quand ça va aller. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très haletant et assez impressionnant. Alors, l'histoire, de quoi ça parle? Parce que là, je vous parle un petit peu du contexte.
Ah oui, donc tu nous tiens en haleine là.
Donc le contexte, dans le premier tome, on suit Kei Nagai, un jeune étudiant complètement asocial, qui a d'empathie pour aucun de ses semblables, qui se fait écraser par un camion et meurt sur le coup. Donc déjà ça commence de façon assez...
violente.
De façon assez dramatique et violente. Sauf que quelques minutes plus tard, sous les yeux incrédules de tous les témoins, il ressuscite mystérieusement et du coup sa vie bascule, forcément. Parce que Kei Nagai, c'est un ajin. C'est des hommes et des femmes immortels qui s'ignorent jusqu'au jour où ils meurent. Et ils découvrent leur immortalité à ce moment-là, en fait. Et donc, depuis leur apparition... depuis leur apparition, forcément, ça crée un peu un trouble dans la population. Ils sont recensés, étudiés par les différents gouvernements mondiaux, et souvent finissent aussi comme des cobayes, et subissent des atrocités afin d'exploiter leur immortalité, etc., pour des fins, je dirais, pharmaceutiques, médicales, etc.
Oui, et leur immur...
leur immur... Oh,
leur immortalité. leur immortalité, est-ce que ça fait changer les caractères de...
Pas du tout.
Ils restent ce qui... Alors, pas du tout. Ils renaissent, ils revivent, mais, sans avoir changé de caractère ou de tempérament.
Voilà, la seule différence, c'est qu'ils ont une nouvelle chance à chaque fois qu'ils meurent, ils repartent. Comme à l'instant ils sont morts.
Ah, mais du coup le gouvernement il pourrait s'en servir pour justement aller tuer des gens.
C'est pas le débat, c'est pas le débat.
Je vais y venir justement. Ils sont utilisés justement à plein de fins différentes. Donc du coup Kei qui se retrouve identifié comme un ajin essaye de cacher sa véritable nature à tous les autres, mais d'autres ajin l'ont identifié, l'ont vu parce que forcément ça fait tout de suite un peu tache d'huile autour de lui et essaye de lui demande de les rejoindre pour retrouver une organisation en fait. Ils essayent de se constituer une petite assemblée, association, etc. Donc lui au début il fait la rencontre de Sato qu'il sauve dans un laboratoire parce que lui-même est récupéré et se retrouve utilisé à des fins expérimentales. Au début, il est assez reconnaissant auprès de Sato, mais il n'a pas forcément beaucoup de sympathie pour cette personne. Et rapidement, on se rend compte que Sato, mais aussi Tanaka, qui est son compère, sont des terroristes qui souhaitent faire payer les humains pour toutes ces atrocités qu'ils font subir à leurs semblables. Donc ils n'ont aucune retenue ni compassion, il n'y a aucune limite dans leurs actes, dans leurs faits, etc. Et ils vont s'entourer d'autres Ajin, ou Ajin, je ne sais pas trop comment le présenter, pour organiser des vagues terroristes.
Renseigne-toi, parce que c'est pénible.
Non, il n'y aurait pas d'idouille à table, je dirais que ça se dit Agin, mais...
A-G-I-N. Voilà, exactement. Et donc, ce qui fait que les activités de ce petit groupe terroriste va monter toute la population des humains contre ces agines, et va y compris les pacifistes qui vont se retrouver comme des dangers potentiels, vus comme des dangers potentiels, et donc vont devoir se cacher pour continuer de survivre plus ou moins tranquillement, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'on voit sur toutes les couvertures, vous pouvez voir, les agines sont capables de faire apparaître et contrôler des IBM, donc des entités noires fantomatiques. Ouais, voilà.
C'est les dire là.
Alors je sais plus ce que ça veut dire invisible body matière, ou je sais plus trop, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on voit sur toutes les couvertures, en fait. Ils sont composés de fines particules, et les communs des mortels ne les voient pas, en fait. Donc il y a une espèce d'aspect fantomatique en plus, qui sont un peu leur une excroissance.
C'est Ludo qui a posé de l'excroissance. Oh, bah écoute, c'est gentil. Et tu
c'est d'autant plus intéressant que tu me disais tout à l'heure, Nico, que c'est tiré d'une histoire vraie.
À tous exactement. Les coups, ça marche.
Et l'accent.
J'ai dû la faire 32 fois en 40 épisodes.
Mais quand c'est bien dit. Donc clairement,
le temps de s'arrêter, je crois.
Pour remettre un peu le contexte, donc c'est un thriller fantastique, très très sombre. C'est souvent une partie d'échec justement entre les Ajin, les Ajin entre eux et les humains, et même entre les humains, puisque chacun a sa propre vision de la façon de les traiter. Ça traite pas mal du sens et de la valeur de la vie, puisque certains Ajin se retrouvent avec l'immortalité comme un fardeau à vivre. Puisqu'ils n'ont pas de liberté maintenant qu'ils sont identifiés comme tels. Comment réagir face à un terroriste qui est immortel ? C'est-à-dire qu'on se rend vite compte que le terroriste qui est mal pris, il se tire une balle dans la tête, hop, et il ressuscite immédiatement à 100% de ses capacités, etc. Alors que lui peut faire des dégâts très importants dans la population. Ça fait forcément écho à l'actualité qu'on peut connaître de temps en temps, malheureusement, et la manière de traiter des terroristes qui n'ont aucune limite face à des gens qui, eux, restent dans un cadre réglementaire, législatif et éthique. Et comme il y a une phrase qui est dans le dernier tome d'ailleurs, où quelqu'un dit au principal personnage, ne gâche pas ta vie sous prétexte que tu es immortel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même toujours un sens à nos actions, et qu'il faut
qu'il y ait un but toujours.
Et surtout, n'oublie pas que tes impacts tes actions ont un impact sur au-delà de ta propre vie. Voilà.
Ils l'ont prévu au bac philo cette année.
Je sais pas si ça ira jusque là.
C'est hyper gore.
Ah oui, c'est très gore. C'est j'allais y venir justement.
Méga gore. Quoi.
Alors je pense que ça devrait plaire certainement à Ludo d'ailleurs.
Dessin est très très joli.
Oui.
C'est tramé.
Oui, ça me branche bien en fait.
Et donc il y a aussi des questions éthiques justement, parce que je l'évoquais déjà dans The Leftovers la dernière fois, c'est-à-dire qu'en traitant finalement le fantastique, les immortels, etc., ça parle avant tout de l'humanité finalement, parce qu'on voit surtout la réaction des humains vis-à-vis des gens différents, vis-à-vis de ce qui leur fait peur, etc. Donc l'humanité qui a envie de tout maîtriser, qui tient pas forcément compte de ce que ces implications et conséquences peuvent avoir sur la vie d'autrui, et donc ils sont souvent, comme je disais, utilisés comme des cobayes de labo, torturés pour les besoins de la science. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions sur est-ce qu'ils souffrent, etc. On considère que comme ils revivent éternellement, bon, on peut leur couper la tête, on peut leur couper les bras, on voit
comment ça se passe, ça repousse.
C'est-à-dire qu'ils se régénèrent. C'est une espèce de remise à niveau, et hop, les bras repoussent, etc., etc. Et ils repartent, hop, à zéro. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont tués plusieurs fois dans la journée, etc., etc. Et c'est pour ça que certains qui sortent de
ça
ces labos
doit être lourd, quand
ont
même,
envie, hein, de se, ont, ouais, envie de se venger. Voilà.
Mais s'ils sont broyés. Et ils, ben, ont plus rien.
Je vais pas tout dévoiler, mais visiblement il y a quelques possibilités de les faire
brûlés.
Disparaître complètement. Mais et du coup, c'est vrai qu'on a cette approche où il y a des paradoxes, c'est-à-dire que les humains, par contre, n'ont pas le droit d'utiliser des armes face à d'autres humains. C'est-à-dire que ils sont en train de se faire complètement exploser les uns les autres, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser des armes parce que la loi leur empêche de faire ça. C'est-à-dire qu'on a plein de paradoxes comme ça dans notre façon humaine, et la seule arme qu'ils peuvent utiliser de temps en temps, c'est le tranquillisant, puisque ils l'endorment sans le tuer, parce que s'ils le tuent, finalement ils rallument. Mmh. Donc c'est le paradoxe, en fait. Donc ça traite beaucoup des préjugés, de la peur des êtres différents, qui fascine autant qu'il terrifie en fait la population. Donc sur la forme, alors ça, comme l'a dit Marius, c'est hyper violent, c'est très très noir, hein, clairement, ça faut quand même reconnaître. Alors c'est mortel dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire que c'est une vraie tuerie au sens propre comme au sens figuré, c'est quelque chose qui... Vraiment pour public averti, hein, parce qu'il y a des démantèlements d'êtres humains dans tous les sens comme on veut bien. Par contre, le rythme est hyper effréné, c'est prenant, c'est hyper efficace, c'est super addictif. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce manga, c'est le découpage des cases et la mise en page qui sont super efficaces. On a envie de tourner les pages tout de suite, on a envie de savoir ce qui se passe derrière. Mais en même temps, on a envie d'apprécier quand même le travail de dessin et de tout ce qui est mis en scène, parce que ça marche super bien. Et le rythme est de plus en plus haletant au fil des tomes. C'est-à-dire qu'à chaque tome, on prend une nouvelle claque, on dit « Oh, c'est incroyable !» Et sans qu'il y ait de redite, c'est maîtrisé de bout en bout, et il creuse tous ses personnages. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il prend quand même un petit peu de temps pour prendre du recul, pour qu'on comprenne un petit peu la profondeur de leurs histoires, ce qui les mène à adopter telle ou telle manière, telle ou telle approche, pourquoi ils se comportent actuellement de cette façon, et quelles sont leurs motivations. Et... comme je disais, il y a certaines scènes qui vont parler à Ludo, notamment dans le tome 6, qui me font penser à The Raid. Le premier, j'ai pas vu le 2, mais dans le premier où on a une histoire
de Danny
Boone. on a une progression dans un immeuble en fait. Les forces en présence sont dans un immeuble, ils montent les étages au fur et à mesure. Et c'est un quasi huis clos avec des fusillades, des scènes d'action qui suivent à un rythme effréné de fou, et tout en restant parfaitement fluide. C'est-à-dire que c'est complètement maîtrisé. Et Gomon Sakurai, qui est donc l'auteur, a un rythme et a un trait qui est super précis, super dynamique. On a un découpage qui est fluide, qui colle au récit. Le dessin des personnages, il me fait un petit peu penser parfois à Katsuhiro Otomo qui avait fait Akira, notamment Kei Nagai qui me fait un peu penser au personnage de Kaneda dans Akira. Le rythme et le dessin, enfin le dessin pardon, est également en progrès. Quand on regarde le premier tome et le dernier tome, je me suis fait la remarque, je sais pas qui a le premier, ça doit être Arnaud. Et le onzième, on voit une différence dans le dessin qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus détaillé. Et c'est vraiment hyper bluffant. On s'en rend pas compte. C'est maîtrisé de bout en bout. Et vraiment, on est pris à l'envers, didouille. Complètement. Donc voilà, c'est vraiment le manga qui m'a vraiment marqué dernièrement. Une vraie claque. Je sais pas si ça parlera à tout le monde, parce qu'il y a quand même un aspect assez fantastique. C'est traité de façon assez manga, etc. Donc il faut rentrer dans cet univers-là. Mais je vous conseille Ajin. Il faut savoir qu'il y a une adaptation en série animée sur Netflix, qui est en deux saisons, 26 épisodes. J'ai vu les 6 premiers épisodes jusqu'à présent. C'est plutôt fidèle au manga, de ce que j'ai pu voir. Au moins sur l'histoire, à voir au niveau du rythme, parce que je vous disais que le manga était très très fort dans son découpage, dans son rythme, etc. Faut voir dans la série. Ce qui me plaît moins, par contre, c'est le traitement visuel, que je trouve beaucoup moins marquant que dans le manga, parce que c'est un type... Ça fait très jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire que c'est des aplats de couleurs, il y a peu de nuances... C'est beaucoup plus froid, ça ressemble à des cinématiques de jeux vidéo avec une certaine rigidité, l'animation n'est pas toujours géniale. Et le rendu des fantômes noirs, justement, des IBM, est plutôt bien rendu. Et donc je vous conseillerais plutôt d'attaquer le manga si ça vous intéresse, et puis peut-être vous faire une idée sur la série animée. Et c'est également disponible en film live, alors là ça me fait beaucoup plus peur et je pense que je n'irai pas regarder. Je suis moins intéressé, souvent les adaptations manga de films en film avec des vrais personnages et des images de synthèse type Death Note, etc. C'est quand même pas souvent des réussites. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce manga Ajin, donc pour un public averti.
Les onomatopées sont très rigolotes.
Ah, je sais pas, c'est
souvent... Écoute.
Ah ben bah oui, c'est
un grand moment de radio.
Fouche.
Fouche. Fouche.
En plus,
c'est le bruit des balles. Fouche, fouche.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur Ajin, semi-humain de Gomon. Gomon, je m'en rappelle, Sakurai.
Eh bien, merci Nico, puisque tu le dis à chacun, tu peux te le dire à toi.
Je me remercie et je m'en félicite.
Non, ça donne envie.
Oui, c'est effectivement, vrai que... ouais, moi ça me... Ouais.
Donc, j'ai ramené les deux premiers tomes, si ça intéresse du monde ici.
Moi je suis puceau du manga, j'ai jamais lu un
c'est
manga.
C'est vrai ouais. Jamais du tout
moi je demandais, je demandais à Lulu genre, comment ça se lisait. C'est vrai que c'est à l'envers, mais même les
cartes. Tu commences par la dernière page et tu lis de droite à gauche.
Mais c'est ça,
et
c'est pas évident quand tu as toujours lu en
après,
pas manga.
C'est quelque chose d'automatique.
Dash, c'est pour courir.
C'est automatique et c'est vrai que le dessin est très très expressif. Voilà.
Ça donne bien envie.
Ça te donne envie, ouais.
Bon, bah, écoutez,
n'hésitez pas à prendre les deux premiers tomes à ce...
là, pour le coup,
entre le bouquin de Christophe et puis les mangas, tout ça, c'est.
On prend le deuxième. Ouais. Le deuxième, je vais prendre le premier.
Ouais. Vos chroniques, elles semblent plus construites que les miennes, en fait.
Non, mais de toute façon, j'ai des trucs à dire.
Bah, ça était très bien ta chronique.
Bah,
très bien,
Marius. C'est plus foutoir. Je sais pas comment. Mais j'aimerais bien être vous, en fait. J'aurais toujours voulu être vous.
Moi, je vais prendre le 11e direct.
Ok, si tu veux. Il va te manquer peut-être 2-3 petites infos, mais
ouais, parce que comme c'est un manga que tu lis à l'envers, tu peux pas aussi lire du 11e au 1er.
C'est pas con, ça.
Tiens, qu'est-ce à dire?
Tu fais super mal. Oh, bah, tiens.
Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. J'aime beaucoup vos émissions, surtout la Madeleine de Prout de Monsieur Lulu. Vraiment, c'est fantastique. Par contre, je n'aime pas trop JR. Je le trouve très très méchant. Bonne journée, bonne continuation à vous. Salut de Toulouse.
Donc on peut se faire des autos.
Donc on nous écoute. Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi tu dis auto-truc?
Oh ben là on a reconnu quand même.
Jean-Michel bah non, il s'appelle
Toulouse,
comment?
On a reconnu Jean-Michel.
Jean-Michel de Toulouse, on le connaît.
C'est Jean-Michel.
Fidèle auditeur, hein, ouais. De Toulouse.
Et ben justement, puisque ce Jean-Michel aime beaucoup la Madeleine de Proust, nous allons peut-être passer directement à cette rubrique. Qu'en penses-tu?
Eh ben allons-y.
Passons au Proust.
Es-tu prêt?
Ah oui, je suis prêt.
C'est maintenant la Madeleine de Proust.
Hello and welcome. Hit the record button.
Madeleine, Madeleine. Il t'a plu le film?
Eh ben c'est à
alors,
moi.
C'est un film?
C'est un film dont je vais vous parler aujourd'hui, un film de 1967. ce film s'appelle Zindalash.
Zindalash. Zindalash. Comment? Mais comment écris-tu Zindalash?
Zindalash, ça s'écrit Zindalash.
Ton en univers fait, impitoyable.
Il est. C'est pas mal Zindalash. Et en fait, ce film, c'est un film dont le titre français s'appelle Dracula au Pakistan. Dracula au Pakistan. Donc en fait, c'est un film qui est éterrisé en ourdou, hein, dans les années 60, un film pakistanais. Donc, ben, je vais vous parler de ce film-là et pourquoi je vous parle de ce film-là.
On se le demande.
On se le demande. Eh ben, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, grosso modo, très rapidement, l'histoire, c'est très librement adapté du roman de Bram Stoker, pour ceux qui connaissent l'auteur de Dracula.
On ne me regarde pas.
Et donc, voilà. Donc, dans les années 60, ça se passe dans les années 60, en fait, un certain docteur Tabani pense avoir découvert le sérum de la vie éternelle. Et Vlati Pagpepper, après avoir joué avec ses éprouvettes, se boit une petite coupette. Et voilà. Et arrive ce qui arrive. Il se transforme en vampire. Et à partir de là, l'histoire, grosso modo, suit plus ou moins la trame du roman de Bram Stoker, mais de manière assez, assez lâche, on va dire. Alors, ce film, alors, pourquoi je parle de ce film-là parmi un tas d'autres films?
On se le demande.
Eh bien, voilà, parce que ce film a longtemps été considéré comme perdu. Et en fait, il a été retrouvé quasiment dans des poubelles hein, de la boîte de prod.
C'est une raison.
Et je vais venir. En fait, ce film est une véritable, on va dire, perle rare, n'est-ce pas, de la production de ce qu'on appelle la production du cinéma Lollywood. Alors, je ne dis pas Bollywood, mais Lollywood. En fait, pour les fans du genre, c'est un film de référence. Alors, Lollywood, qu'est-ce à dire? Ben, Lollywood, en fait, c'est la contraction entre Lahore et Hollywood, Lahore, qui est donc une des la capitale du Pakistan.
Capitale du Pakistan, tu peux le dire.
Pakital du Pakistan.
Ce que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'on apprend.
Ou,
des
si
choses.
Vous préférez, la capitale du Kapistan. Ça dépend comment vous voulez. Ouais, bref.
Et pas du Boukistan.
Alors, en fait, voilà.
Elle le cherche.
Et donc,
allez, bourse, vous pourrez rester pleine longtemps. Hein.
Ce terme désigne, en gros, là.
Troisième rire gêné.
Non, pas rire gêné. Là, il est content.
C'est un rire envieux, là. Impatient, même.
Alors, en fait,
c'est le rire quand il éjacule précocement.
donc en fait, pour vous faire sans vous saouler la tête avec toute une
ça commence mal, hein.
L'histoire de la production pakistanaise du coin, juste en deux mots, en fait, donc cette production cinématographique pakistanaise dans les années depuis les années 20 jusqu'aux années, on va dire, fin des années 70, était assez riche. Et à concurrence, enfin, n'avait rien à envier avec la production dite de Bollywood, c'est-à-dire toute la production indienne qu'il y avait. Le gros avantage de cette production-là, en fait, c'est que nous, on la connaît pas du tout en France, même en Occident. Et en réalité, ces films-là étaient tournés en ourdou, qui est donc la langue
officielle du Pakistan, et donc qui drainait évidemment pas mal de monde. Et la production, l'Hollywood, en fait, a commencé à décliner à la fin des années 70, puisqu'en fait, avec le coup d'État et je dirais la mise en place effectivement d'une censure assez forte, tout ce qui est la censure religieuse, etc., la production s'est mise à chuter jusqu'à ces années-là, maintenant, en 2000, où franchement, le cinéma, on va dire, de l'Hollywood, et pas en super bonne santé, même s'il y a des choses qui redémarrent un petit peu, il y a encore des choses. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit très très rapidement. Et la comparaison avec Bollywood, c'est que Bollywood, évidemment, est très 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 connu pour ses films très fastueux, très très
voilà, comédie musicale, très coloré,
très comédie musicale. Alors l'Hollywood, cette production-là a une petite, je dirais, a plus a son identité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, eux, on dit souvent, oui, c'est un peu la version cheap de Bollywood, ce qui est pas toujours le cas. En réalité, l'Hollywood, eux, leur spécialité, en tout cas leur marque, eux, c'était pas mal d'aller reprendre des succès américains, hein, et d'essayer de un petit peu de s'inspirer. Quand je dis s'inspirer, je suis sympa. C'est même d'aller carrément aller chercher
pomper.
Les succès hollywoodiens. Pas forcément pomper, mais si tu veux choper.
Le chauffe pas.
Erratum, la capitale du Pakistan, c'est Islamabad.
Islamabad. Mais enfin, Lahore était en fait le centre de production principal de.
C'est la capitale cinématographique.
Voilà, exactement.
Ah ouais, tout le monde sait ça.
Mais on ne se renseigne pas.
Tu as tout à fait raison pour cette précision, je te remercie. C'est beau. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et donc, en fait, je disais quoi, moi, en fait, avant qu'elle m'interrompe?
Mais lit au lieu de.
Non, c'est. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce cinéma-là, voilà, en fait, s'inspirait beaucoup du cinéma hollywoodien. Mais. Le
il y a
truc,
pas des
c'est que
Spider-Man version.
On en était à pomper.
Alors oui, non, quand je dis pomper, c'est pas forcément pomper, c'est vraiment s'inspirer fortement, c'est-à-dire de reprendre un peu les codes hollywoodiens, donc d'avoir un peu notamment de reprise de mélodrames américains, de reprendre tous les films des années 20, les années 30, etc., étaient très inspirés par tout ce qui était à l'époque l'âge d'or d'Hollywood. Donc ils s'en sont pas mal inspirés. Et donc, par contre, en adaptant ça, évidemment, à la couleur locale. J'en perds mon petit bout de papier. C'est-à-dire que non seulement ils récupèrent, en fait, les succès, et ils les adaptent à la couleur locale, d'où des fois un mélange des genres un peu surprenant, parce qu'évidemment, qui dit l'Hollywood dit aussi, ils ont une forte culture des numéros dansés, chantés. Il y a vraiment un aspect comme ça qui est très intéressant. Et il y a un aspect intéressant, mais je vais en reparler après, c'est que dans la mesure où c'est un pays musulman, en fait, effectivement, c'est très, je dirais, très très marqué par cet aspect-là. Et du coup, on s'arrive avec un mélange des genres qui est assez surprenant. Et ce Dracula-là en question.
On le voit danser, alors ?
Alors, pas Dracula. Mais je vais y venir. Et en fait, on se retrouve avec un mélange des genres.
Oh, ne spoil pas.
Franchement, je vais quand même vous dire deux, trois petites choses. Vous allez voir, c'est assez marrant. On arrive à un mélange des genres, franchement, pour quelqu'un qui n'est pas averti, ça peut surprendre. En gros, si vous voulez, le film attaque. Avec une séance pré-générique, donc façon vraiment années 30, universelle, avec le type qui va boire sa petite boisson, là, tchoup, il boit son truc et il va se transformer en vampire. Et là, le film, le noir et blanc, est vraiment très très beau. C'est un très beau film noir et blanc. La musique est
dramatique, non ?
Dramatique, façon années 30.
D'accord.
Donc avec les cordes, ouais. Ça pète et tout, c'est vraiment très prenant. Une image, un éclairage très expressionniste, c'est-à-dire un noir et blanc très contrasté, très marqué, avec des poses comme ça, des poses très théâtrales, très typiques du cinéma muet des années 20. Mmh. Vous savez, cette espèce de côté un peu Fritz Lang, un peu comme ça. Très universal, les films de monstres des années
20. Voilà. Je pensais le Dracula finalement de.
Exactement.
De Universal, en fait.
Et avec voilà, donc le type va, une fois vampire, va transformer son assistante en vampire, et on est vraiment dans cette espèce de côté là très très marqué Hollywood. Puis arrive le générique.
Et là, c'est le drame.
Et après le générique, on se retrouve qu'il y a une bagnole qui roule sur une route et qui va rejoindre ce manoir où habite le vampire sur la musique de la cucaracha. et je peux vous assurer que quand on n'est pas prévenu, ça fait tout drôle.
Le contraste est saisissant.
Surtout que ce morceau de la cucaracha est interprété un petit peu façon pakistanaise. Et c'est assez génial. C'est-à-dire que là, tu as vraiment quelque chose de surprenant. C'est-à-dire que le film va en permanence alterner entre des séquences effectivement très gothiques, très très film d'horreur, ou en tout cas film d'épouvante classique façon d'ailleurs le façon comme je disais universelle, façon même la Hammer pour ceux qui connaissent un petit peu. D'ailleurs le personnage qui joue Dracula clairement il est inspiré directement de Christopher Lee.
Oui.
C'est clair et net. D'ailleurs c'est marrant parce que le type commence comme un professeur au départ et puis quand il accueille son invité Harker, il est avec une cape noire façon Dracula, façon 19e siècle en fait, ce qui est assez drôle quoi. Enfin bref, bref.
Oui, c'est très drôle. C'est,
oui, quand tu vois le film, c'est très très drôle. Surtout que le film enchaîne ensuite, une fois que cet invité arrive chez, donc, on va dire Dracula entre guillemets, parce qu'il s'appelle pas Dracula dans le film, son assistante qui est elle aussi transformée en vampire, va lui faire une danse de séduction. Pour le vampiriser derrière. Et là, on a droit à une danse de séduction sur la musique.
Façon Bollywood, là.
Façon un peu Bollywood. Mmh, et c'est assez formidable. Et d'un seul coup, tu passes à un plan qui est même un plan, je dirais, très marquant, purement, avec gros plan sur les yeux, un noir et blanc très fort, purement années 30, façon Dracula Ted Browning, vraiment magnifique. Et puis, derrière, après, tu enchaînes. Directement, dans les années 60.
La cucaracha.
Alors, pas la cucaracha, mais sur du twist yéyé.
La carioca.
Où là, tu as toute une assemblée dans un bar qui se met à danser avec des mauvais garçons qui sont là et qui chantent. Et surtout, c'est
là, on est dans West Side Story, voilà.
Alors, honnêtement, c'est super drôle parce qu'en fait, il ne s'agit pas en plus de se moquer, c'est juste que c'est là que tu vois vraiment le. Tu ne sais pas, en fait, le film est constamment. Alors, tu sais pas si le film a le cul entre deux chaises ou pas, même si j'ai quelques éléments de réponse, mais on y viendra après. Mais le film est constamment sur cette.
Entre deux, ouais.
C'est entre deux, en fait. Et donc. Qu'est-ce que je voulais dire? Je retrouve mes petites voilà. Il y a notamment en fait des scènes très drôles. Donc les numéros chantés vont donc se poursuivre. Et pour vous dire en fait, ces numéros ils sont à la fois. Bah, évidemment, on est dans les fins des années 60. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le film, on a l'impression qu'il a été tourné 40 ans avant à cause de ce noir et blanc là. Et après, on se retrouve avec ces séquences de numéros dansés. Et alors là, évidemment, ça fait un côté très naïf, très très kitsch. Et en même temps.
Il y a un message.
Il y a un côté un peu faussement, faussement candide, avec une petite. Alors, je parle d'érotisme. Attention, hein. Attention, on se calme là. On est à la fin des 60 et on est au Pakistan.
Pas de quoi vider les bourses.
Mais quand même. Je vous cite un petit peu les paroles à un moment. Il fait beau. Vient le temps de la jeunesse et des ébats coquins. Donc, autant vous dire que.
Putain, c'était des chaudards.
C'était des chaudards. La chose que tu dis, c'est qu'est-ce que ça vient faire dans le Dracula. Et c'est ce qui est vraiment drôle. Il y a aussi, j'aime aussi beaucoup une chanson qui s'appelle Petit oiseau chanteur. C'est un tout petit peu plus loin. Et voilà. Et les morceaux arrivent comme ça.
Comme un cheveu sous la soupe.
Donc voilà à peu près l'idée. Bon, après, il faut être honnête, hein, le film, c'est pas non plus.
Un chef-d'œuvre.
Le film est un peu statique. Il est même un petit peu longué au bout d'un moment parce qu'il manque un tout petit poil de rythme, hein, c'est rien de le dire. Et puis il y a pas mal de discussions.
Un peu comme ta chronique.
Assez.
je regardais s'il y avait un des salauds là qui allait la faire, puis
Les acteurs en font des caisses parce que quand on voit Dracula rouler des yeux pour être méchant, c'est assez impressionnant. Enfin, ça fait marrer à blinde. Les effets spéciaux, je vous en parle pas. Mais par contre, il y a quand même encore une fois des scènes qui sont franchement hilarantes en fait. On a notamment une scène qui se passe dans un bar où en fait les gars évidemment les personnages principaux essaient de retrouver en fait un type qui a disparu, un de leurs amis disparu, et ils se disent attends, près de ce château là il y a un bar, on va aller voir le propriétaire du bar qui doit certainement en savoir un petit peu là-dessus. Donc ils vont voir le propriétaire du bar. Il s'installe. Et alors, faut quand même savoir que le gars qui a bu le Dracula en question, il a bu son coup, il est mort. Et à part son assistante, il s'est foutu dans un coin, dans un cercueil, et puis il bouge plus, on le voit plus du tout. Hein. Et ben là, en fait, les gars, ils vont voir le gars au bar et ils lui demandent, mais alors, est-ce que ça vient un peu plus? Et le gars au bar commence à leur expliquer, ben oui, mais bien sûr. Le type, en fait, a priori, il a bu un coup, et puis après, il est devenu mort, il est mort, puis maintenant, c'est un vampire, il boit le sang des gens et tout. Et puis aussi, il faut faire gaffe parce qu'il contamine tous les gens. Et puis, pour le tuer, il faut l'avoir carrément, il faut pouvoir lui coller.
Mais qu'il en sait plus que.
Et, tout. Et voilà, et alors, il te raconte tout ça. Et évidemment, la question qui taraude le fondement de tout le monde, c'est mais comment savez-vous tout ça? Et le mec doit répondre, j'ai fait ma petite enquête.
Et c'est d'autant plus drôle que tu me le disais hors micro, mais c'est basé d'une histoire vraie.
Exactement. Alors il y a aussi un autre point qui vaut pour que le film soit vu, c'est quand même la scène de confrontation finale est un monument du genre. Puisqu'en fait, c'est une bagarre, et en fait, les scènes de cascade est juste hallucinante. C'est-à-dire que les types se battent évidemment à coups de poing. Enfin, le chasseur de vampires est incroyable. Hein. Il s'est massacré la tronche par le vampire. Mais alors, en plus, très théâtral. Hein. Faut vraiment que.
Ouais,
que
il monte cette séquence. Il rebondit contre les murs, il tombe en 20 000 fois.
Grands gestes. Enfin, c'est pas très racontable à l'émission, mais je vous montrerai ça.
T'as enlevé le prix sur la jaquette, c'était combien sans indiscrétion.
Je l'ai eu d'occasion en plus, donc c'était un modeste prix de 2€. Et donc voilà. Et donc voilà. Les cascades à 2 roupies, comme on dit, c'est un des moments très très forts du film. Donc voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'en plus le film, par contre, a vraiment une volonté sincère. En fait, on sent toute la sincérité du film. C'est vraiment de reprendre les canons esthétiques du film de genre et en même temps vraiment et puis toute cette fraîcheur des numéros de danse et tout. Il y a un mélange comme ça qui rend le truc assez attachant. Ouais. Alors évidemment, ça accuse le poids des ans. C'est pas vraiment original parce que ça reprend complètement la trame du roman, mais sans tentative de vouloir ajouter quelque chose en plus. En fait.
Ah, quand même, il apporte un peu de danse,
un peu de
carioca,
un peu de folklore. Par contre, le film reste très très étonnant pour des spectateurs comme nous, parce que nous, on est très habitués à un cinéma quand même finalement assez formaté en règle générale. Je veux dire, c'est un cinéma occidentalisé, très voilà. Et quand tu te retrouves avec ce genre de film là, du coup, ça te
perturbe.
En tout cas,
c'est chakra.
Oui, exactement. Ça change complètement. Et du coup, je veux dire, c'est vraiment à voir si vous voulez voir un peu un. Autre chose, en fait, un autre type de cinéma, c'est assez marrant.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est que à l'époque, dans les années 60, est-ce qu'au Pakistan, il a eu du succès?
Alors justement, je vais y venir.
Est-ce qu'il a un grand succès?
C'est écrit au dos de la DVD. Le film rencontre un gros succès.
Alors je vais y venir parce qu'en fait, effectivement, pour le contexte, je vous ai parlé du film, et puis en quelques mots de contexte, effectivement, il faut savoir quelques petites choses à savoir. Ce film a été classé X par la censure pakistanaise à l'époque.
Wow.
Suite à la petite réplique de tout à l'heure.
Merde, j'ai oublié.
Sur les ébats coquins.
Sur les ébats coquins. Ouais, mais tu sais que cette espèce d'aspect érotique, entre guillemets, en fait, il est tout en filigrane tout au long du film. Toutes les
suggéré.
Oui, et je trouve que c'est assez réussi, ça, en fait. Le Dracula qui va séduire ses victimes, ou encore les danses de séduction, etc. Il y a vraiment un côté, c'est extrêmement léger, c'est pas du tout déshabillé, il n'y a rien. Mais c'est vraiment joué sur des poses assez lascives, assez
bonjour, je tendant. Suis le réparateur de machines à laver. Ouais.
Non, mais il y a ce côté un petit peu comme ça, un petit peu qui se veut très sensuel et qui fonctionne plutôt pas mal, encore une fois, pour l'époque.
Tu peux nous dire un petit mot sur les bonus du DVD? J'ai vu un truc incroyable, il y a la bande-annonce du film.
Et oui, je compte vous montrer cette bande-annonce tout à l'heure. En fait.
T'as bien fait de le demander. Merci, bravo.
Allez, assez courte, mais ça vous donnera un peu une idée. Donc comme je vous dis, ce film a été classé X par la censure à l'époque, mais classé X, mais il a l'interdiction en salle, finalement, le producteur a comme incité pour que ce film puisse être diffusé, et il a été diffusé, et en fait, il a connu un succès parce que, justement, le classement X a attiré la curiosité des foules qui se sont rendues en masse là-dedans.
Alors, ils n'ont pas été un peu trop dégoûtés quand ils ont vu que c'était juste pendant une chanson qui parlait d'éventuellement des bas coquins?
Et bien en fait, en réalité, c'est peut-être moins cette partie-là que plutôt l'aspect, si tu veux, film d'horreur que le Pakistan ne connaissait pas, parce que c'est à la fois le premier parce film d'horreur.
C'est marqué qu'il a été censuré pour des scènes vulgaires. Alors, ça peut être.
Essaye d'être plus clair quand même, Lulu, quand t'expliques un truc, parce que là, en fait, ce qu'on lit là-dessus, c'est pas du tout ce que tu dis.
Oui, mais ça, c'est pour accrocher le. C'est pour accrocher
ouais,
le.
C'est
le,
même
le,
écrit le, au-dessus, anecdote.
C'est pour accrocher le chaland, si tu veux. Ouais, parce que attends, tu as un making-of sur ce DVD. Cours.
Ah, plus que la
bande. C'est pas un making of d'ailleurs, c'est plutôt l'interview du producteur. C'est l'interview du producteur,
fait,
du metteur en scène.
Le storyboard.
Si tu regardes, ça dure 12 minutes.
C'est 12 minutes. Ils interviewent le producteur, le réalisateur et quelques acteurs principaux du film qui réexpliquaient, qui resituaient le film dans le contexte à l'époque où il était sorti. Alors, il faut savoir que ce film-là était le dernier film d'horreur au Pakistan. Parce que, après, pour le coup, avec encore une fois le coup d'État et la pression religieuse, il n'y a plus de films de ce genre-là au Pakistan. On parlait de succès, alors moi je sais que les producteurs et réalisateurs parlent de gros succès, etc. Je suis allé me rencarder un petit peu par ailleurs sur autre chose. Le discours n'est pas toujours le même en fait, en fonction des sources. D'autres disent qu'il n'est resté qu'une semaine à l'affiche, parce que du fait de. Dans la mesure où le public n'était vraiment pas habitué à ce genre de cinéma-là.
Est-ce qu'il ne parle pas de succès à la réédition du DVD?
Ouais, le DVD il est ressorti en 2006, je crois. C'est Bach qui a ressorti ce DVD-là, qui a retrouvé lorsqu'ils ont ressorti le film, qu'ils ont nettoyé. Qu'ils ont fait une restauration numérique, ils l'ont sorti en 2006, mais pour moi il n'y a pas eu un succès à ce moment-là en fait. C'est vraiment à l'époque
on l'attendait pas quoi.
Alors aussi autre chose,
ça non plus hein, ça non plus.
Alors ce qui est intéressant, c'est comment le producteur explique la jeunesse du film et avec le réalisateur, et ça peut aussi expliquer comment le film aussi a pu être le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que le producteur est venu voir le réalisateur, ils étaient potes, et le producteur dit moi je voudrais vraiment 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 faire un film. Un vrai film d'horreur à l'américaine, quoi. Un truc vraiment. Et le réalisateur dit attends, c'est quoi ton truc? Non, non, mais c'est pas pour nous, ça. Et il est revenu une fois, deux fois, trois fois. Et à ce moment-là, le réalisateur dit ok, je veux bien faire ton film. Par contre, c'est moi qui choisis les musiques. C'est moi qui mets des numéros dansés, etc. Et donc, on peut supposer que, quand même, il y a eu des compromis. Et qu'il y a deux films en un, en fait, là-dedans. Juste un truc, Dracula, il y a des allusions chrétiennes dans le film. Dans le livre. Oui. la croix, etc. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est voilà, tout a été gommé en fait. Mm. Donc il y a absolument aucune allusion à une destruction du vampire par la croix. Il est détruit par le soleil,
par l'eau bénite, toutes ces choses-là.
Voilà, il n'y a pas d'eau bénite, il n'y a pas de croix, etc. Voilà. Le mec, il est con. Et voilà. Et en fait, d'ailleurs, il donne même une explication à l'origine du vampire, qui est en fait l'origine un peu de façon de Jekyll et Hyde, puisque le gars boit un truc qui le transforme. Et ça,
comme
on
didouille.
Peut... Voilà. Et ça, on peut supposer que ça, ils l'ont fait parce que simplement.
Moi,
parce
ça
que...
me réussit bien pour autant.
C'est ce que tu crois.
On peut supposer ça parce que les Pakistanais, en fait, tout simplement, ne connaissaient pas Dracula, et que donc c'est une manière d'expliquer aux spectateurs, de donner une explication à cette transformation-là, parce que, en Occident, on n'a pas besoin de ce
background. Partie de l'imaginaire collectif.
Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Une dernière chose.
Oh, t'as fini, hein,
Oui.
Ouais, il y a un moment, faut t'arrêter quand même, non ?
Ce qui est assez génial, c'est que dans l'affiche du film, l'affiche du film, vous trouverez, en fait, c'est déconseillé. Alors pas celle-là, hein, parce que celle-là, c'est une affiche DVD, mais il y a une affiche où vous trouvez déconseillé aux personnes qui ont peur des démons et qui ont peur de toutes ces choses-là, etc. Oui, mais... Dans l'affiche de 67, c'était ce qui était indiqué pour bien dire attention, n'y allez pas si vous êtes trop sensible. Voilà, donc c'est rigolo, c'est à découvrir. Une vraie petite Madeleine de Proust.
On va presser de voir la bande-annonce. Hein,
je vais vous montrer ça. Enfin, j'espère pas trop vous l'avoir sur fond d'écran.
J'espère qu'elle sera sur le site de l'entrepôt.
Ah bah oui, bien sûr, bah oui, c'est une excellente idée. Ah voilà, au boulot.
On va en faire des vues.
Ça, je peux te dire que
je rappelle un Dracula au Pakistan,
mais en langue originale,
en ourdou, sous-titré Zindalash. Voilà, le réalisateur s'appelle Khwaja Sarfraz.
Merci beaucoup, Starlette.
Oui.
Toi, alors va falloir rebondir derrière ça quand même. Hein.
Oui.
De quoi vas-tu donc nous parler? Attention.
Oui.
Quand je me regarde dans quelque chose, je le fais à fond.
Oh, il y a des effets spéciaux. Quel bordel.
Elle sort du cercueil.
Ah.
Bon bah c'est cool. Alors je vous ai fait un petit test ce mois-ci.
J'adore les tests.
Qui m'a pris un bon mois. Je vais vous parler du kéfir de fruits.
Du
kéfir. Est-ce que vous savez ce que c'est?
C'est l'attaquant de Lyon.
Quoi? Il a dit quoi? D'accord. C'est pas les pots de fruits qu'on fait déshydrater, non.
C'est pas un fakir indien mais à l'envers.
Non, un alcool avec des fruits.
Bah, il y a forcément l'alcool, non?
Alors il peut y en avoir un petit peu au bout du compte, mais c'est pas
de la
c'est pas significatif.
De la peau de testicule séchée.
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est de noix, ce sont des fruits secs en fait.
Et le kéfir, c'est pas après si tu prends un extracteur de jus, tu gardes la pulpe.
Alors l'extracteur de jus, c'est
un extracteur de mots pour Didouille parce qu'on les a quoi sortir.
Mais qu'est-ce qui t'arrive Didouille?
Extracteur, si.
Dans la vie, je suis extractrice des jus.
Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et... Ah.
On va rester dans.
Oh
bah oui, j'ai
le côté. C'est moi.
Donc, Nico,
donc ça
c'est des gros spermatozoïdes ça, dis donc. Oh, ils sont énormes, dis donc les tiens.
Ça c'est vivant.
Putain, ils sont stock hein.
En fait, ce sont des grains vivants. C'est
alors, juste pour préciser quand même aux auditeurs, on a la semence de Nico en direct live là.
Elle est un peu diluée quand même. Hein.
On dirait des petites pépites. Oui, c'est un peu cette texture-là.
Moi, je te dis que c'est du sperme de mammouth gélifié.
Tu vas nous raconter tout ça.
Absolument. Donc là, ce sont des graines de kéfir de fruits. Il existe aussi des graines de kéfir de lait.
Et ça vit.
Mais c'est quoi le kéfir alors?
Alors le kéfir, en gros, donc c'est pour faire une boisson probiotique, puisque là c'est un micro-organisme vivant.
Mais là tu veux pas
vivant.
Le boire ça.
Tu veux nous faire goûter ça? Non.
Alors non.
Moi c'est
non.
Mais même pas la langue.
Attendez, laissez-la dire.
En fait, grâce à ces graines de kéfir, tu peux fabriquer toi-même facilement une boisson pétillante. Fermentée donc et qui aurait ça reste du conditionnel hein, 1000 vertus que je vais vous énumérer tout à l'heure.
Mille.
Donc ce serait la boisson saine par excellence en fait, rafraîchissante, finement pétillante, économique.
Ouais, mais...
Parce que ça en fait tu peux pas commercialiser le kéfir.
Ah, tu m'étonnes, ils sont tous morts.
Non, les graines de kéfir ça s'achète pas en fait, ça se donne.
Donc il faut que tu passes par un réseau de personnes. Parce... Alors, non, je sais pas comment attaquer le truc.
Vas-y, vas-y, c'est pas grave.
Parce
c'est
qu'en fait, c'est un truc quand de tu solidaire, crées ta boisson, de bobo écolo, de écolo, pourri, voilà, de gauchias de merde.
Gauchias.
68 tard à la con.
En fait, le kéfir. Donc tu trouves quelqu'un qui en a.
Ouais.
Il te le donne. Il faut que tu le réveilles parce que tu le. C'est une boisson vivante.
Et
donc
tu le réveilles dans l'eau.
En fait, dire... il...
C'est comme les triops en fait.
Est-ce que c'est un peu comme Christophe avec son shit en fait. Il doit trouver quelqu'un qui en a.
Ça fait penser aux triops des enfants.
Et alors donc.
Donc en fait, ton kéfir, tant que tu l'utilises pas, tu le mets dans l'eau au frigo et il s'endort. Donc les grains sont 10 fois plus petits que là. Là, il est réveillé. Non, il est réveillé celui-là.
Bah pourtant il est dans l'eau.
Écoute, hey, tu l'entends, tu sais, c'est il comme dans les nuls là.
Il est pas au frigo.
Gluons du pot.
Pour le réveiller, il faut que tu le sortes du frigo. Tu le remets dans de l'eau, soit minérale, soit de l'eau du robinet mais décantée. Il faut plus qu'il y ait de chlore dedans. Avec du sucre, il va se comme nourrir. Les micro-organismes, ouais. Ça va se nourrir de sucre. Et tu vas lancer plusieurs fermentations et au fur et à mesure, tu obtiendras ta boisson.
Ça
se multiplie. Donc, tu fais ta fermentation et quand tu as mis 20 grammes de graines de kéfir dans ta préparation, tu en récupères 30 grammes.
Il faut que je vous parle d'un film qui s'appelle The Stuff, mais ce sera pour la prochaine fois. C'est sur le même bras.
Tu en récupères 30 grammes et au fur et à mesure, en fait, tu te fais ton stock de grains que peux réendormir au frigo et donner à d'autres gens pour qu'ils refassent de la boisson.
Mais le kéfir, ça
la
vient
boisson
d'où
du c'est quoi
alors, tu veux, alors, ça tombe très bien que tu me poses cette question.
Ça sort d'où, quoi.
L'histoire du kéfir.
C'est parti.
On dit... que ce sont des bergers du Caucase qui, il y a plus de 2000 ans, transportant à d'autres chameaux leur lait dans des outres de peau, auraient découvert qu'il se formait, en cas de fermentation, une boisson effervescente.
C'est comme ça qu'ils ont créé le Caucase Colin.
Lorsque l'on récupérait les grains se trouvant au fond de ces outres, on pouvait ainsi reproduire cette fermentation. Selon la légende, le prophète Mahomet aurait... offert les grains de kéfir aux membres de la tribu aux membres des tribus du Caucase. Ceci expliquerait pourquoi les grains de kéfir sont quelquefois appelés les grains du prophète. Transmis de génération en génération, le secret était si bien gardé que lorsque la Russie chercha à se procurer des grains de kéfir, elle dut faire une véritable mission d'espionnage et de charme auprès d'un prince perse. Les grains furent finalement introduits en Russie au début du XXe siècle et la culture de kéfir se répandit ensuite rapidement en Europe de l'Est, puis plus récemment en Europe de l'Ouest et en Amérique. La tradition propage des histoires de vitalité surprenantes au sujet du kéfir. Plusieurs y voient une corrélation avec la longévité particulièrement importante des habitants des régions montagneuses du Caucase, où plusieurs vivaient plus de 100 ans. Aujourd'hui, les microbiologistes commencent à confirmer ces légendes avec l'aide de leur microscope.
Wow. C'est une sorte de
encore
génération.
Un film de Ludo quoi.
Et question alors, mais toi tu l'as eu comment?
Bah, quelqu'un qui me l'a donné.
Bah qui?
J'ai trouvé un fournisseur. C'est une sur sorte Facebook, de... t'as des groupes en fait.
Mais ça ressemble à quoi quand c'est planté?
Mais c'est pas planté.
À quel moment tu veux le planter?
Bah, là, il y a des graines. La culture de kéfir.
Ah mais non, ça se cultive pas dans la terre.
C'est probiotique, tu fous dans l'eau.
Voilà, tu le cultives. Alors le kéfir de fruits, c'est dans l'eau, ça se multiplie dans l'eau avec du sucre donc, et le kéfir de lait, c'est dans le lait.
Et tu l'as goûté là ou pas encore?
Mais ça se boit pas, je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué avec.
C'est une sorte de génération spontanée.
Pourquoi ça tire première?
J'ai peur, attention, une bestiole qui va sortir de sa glacière.
Je vais juste comprendre. Là, ce que tu nous montres là, c'est donc, il y a un bocal dans lequel il y a de l'eau et dedans,
il y a des grains
gonflés. Voilà. Après, la question, c'est, tu dis ça sert pour faire une boisson effervescente.
Qu'est-ce qu'on fait de ces grains?
C'est-à-dire que ces grains-là que tu ne peux pas boire, là, enfin, en tout cas, l'état tel que tu nous montres, tu peux pas manger ni boire. C'est que tu fais quand tu en mets 2-3 dans une boisson,
je vais t'expliquer.
Alors, mets combien? Ouais, explique-nous. Explique.
Ça, c'est du kéfir de pomme. Ah oui, c'est vrai que ça fait. J'avais pas vu ça comme ça.
Mais c'est pas possible.
Pour l'image, pour les poditeurs, vous regardez les bronzés fondus skier.
Bon, j'en ai une deuxième bouteille, mais je la sors pas tout de suite. C'est la même, hein, la deuxième bouteille. Donc là, pour fabriquer ce kéfir.
On n'est pas obligé de goûter.
À la pomme, bah, tu vas me faire plaisir.
Starlet, ça s'appelle une question. Ça réduit ton espérance de vie de combien de temps?
Au contraire, ça te rend immortel, ils disent.
Oui, tu deviens un agent.
Tu vis plus de 100 ans.
Après, tu deviens Dracula, au Pakistan. La boucle est bouclée, nous dire revenons.
Donc, tu voulais la recette. Je t'explique vite fait. Donc, pour arriver à ça. C'est gentil,
c'est vrai, en plus, carrément.
Je comprends pas tout, mais ça m'intéresse.
C'est vrai? Et vous, si vous avez des questions, allez-y, parce que.
C'est la jonction des deux. Vas-y, je
alors, c'est
la
pareil.
Fin,
à la jonction. Donc, plein. Les grains, hop, je les ai récupérés. Ils étaient endormis. Je les ai réveillés dans de l'eau, du sucre, et hop, je les ai mis de côté. Ensuite, pour fabriquer ma boisson.
Ah, ça ressemble à poison, excuse-moi.
Je récupère 20 grammes de ces grains que je mets dans un litre d'eau minérale ou du robinet décanté, auquel j'ajoute une figue, bio, parce que les pesticides, le kéfir, il n'aime pas, il crève, et une rondelle de citron, pareil, bio. Je mélange le tout, je referme, et j'oublie 24 heures.
T'oublies.
Dans un coin, tu touches pas.
Je bure la gueule.
Je me bure la gueule. Et donc ça, c'est la première fermentation. Première fermentation, donc qui dure. Alors 24 heures, c'est pour un effet plutôt laxatif. 48 heures, ça te fait rien. Et 72 heures, ça aurait tendance un peu à constiper.
Aïe.
Ça agit sur le corps, c'est des.
Et ta figue et ton citron, c'est toujours le même. Il faut toujours.
Non, tu le changes à chaque fois.
Enfin, un film érotique.
Ta figue et la rondelle.
Tu changes à chaque fois. Donc une fois que ta première fermentation, ça, on appelle ça la F1.
Après 24 heures.
Après
donc.
24 heures, donc tu passes. Donc alors aucun contact avec le métal, aucun contact avec le métal.
Donc tu filtres. Donc avec tu un mélanges papier filtre
avec une passette en plastique, là une petite passoire en nylon.
Pourquoi le métal?
Ça tue le kéfir.
Ou un bas.
Ça oxyde, c'est un oxydant le métal. Donc,
ou un bas ou une vieille chaussette.
Voilà. Ou alors des couverts en inox, mais en tout cas pas de couvert classique. Voilà. Une cuillère en plastique ou en bois. Enfin voilà, ça doit pas toucher le.
Parce
le
que
métal.
Tu te resserres du kéfir après.
Oui, parce que, et en plus, donc à la fin de cette première fermentation,
il s'est multiplié.
Oh de 20 grammes, je serais normalement environ passé à 30 grammes. Donc
mais
je
mais
récupère.
Comme c'est dans l'eau, je comprends pas.
Je
tu
passe
peux
avec mon chinois. J'ai ma première bouteille.
Marius va te demander, mais qui est ce chinois là qui débarque dans ton histoire?
Oui,
on parlait du Pakistan tout à l'heure.
Mais d'accord, tu récupères les graines,
c'est elle
que tu.
Ta première fermentation, donc après, t'enlèves tes grains, ton citron, ta figue, et tu peux. Consommer ton kéfir comme ça.
D'accord.
Tu peux aussi, pour aromatiser ta boisson, passer à la fermentation numéro 2. Voilà, c'est ça, exactement.
D'accord.
Merci
compris,
Didouille.
Le truc, c'est que tu appelles le kéfir à la fois le grain et la boisson.
C'est vrai. Alors
c'est
les grains, oui, c'est vrai.
Qui me perturbe.
C'est vrai. Alors c'est dire grain de kéfir à chaque fois.
Ce qui me perturbe, c'est à l'origine du début du commencement, ils viennent
dans les outres des chameaux, on a dit tout à l'heure.
Ouais, mais d'accord, mais depuis combien de temps
c'est
2000 ans, on a dit.
Et donc depuis 2000 ans, il y a des gens qui se
bourrent la gueule au
kéfir. Qui se filent des grains de kéfir.
Alors ils se refilent des grains de kéfir pour perpétuer la fermentation quoi.
Et il y a personne qui s'est dit à un moment, tiens, je vais faire un business de ça.
Ah oui. Parce qu'il y a la chaîne du kéfir. Personne va aller t'acheter ton kéfir, oui. Alors que je peux contacter quelqu'un qui va m'en donner.
Sur la TNT, c'est combien la chaîne?
C'est la télé 7 jours.
Parce que tu vois, oui, d'accord.
C'est la télé kéfir.
Donc, après cette première fermentation, tu peux boire directement ta boisson. Mais tu peux aussi l'aromatiser. En ce cas-là, tu passes ta boisson en deuxième fermentation. Donc, tu peux ajouter, et c'est ce qui va donner les bulles, la deuxième fermentation. Du jus de pomme. Alors, c'est une première expérience. C'est a priori ce qui donne le plus de bulles. Parce que moi, j'en avais pas beaucoup.
Et là, c'est bullaire. Enfin, il y a de la bulle.
Je sais pas. On va le savoir en l'ouvrant. Parce que des fois, ça explose. Je l'ouvrirai peut-être dehors. c'est ce que j'ai vu sur Internet. Donc, tu mets du jus de pomme si t'aimes ça. Tu peux mettre des framboises, des fraises.
Si, en fait, c'est la.
Ceci n'est pas une recette de cocktail Molotov.
Et si vous nous écoutez, ne le refaites pas chez vous.
Attention, ce qui est fier a été réalisé par une professionnelle.
Alors, moi, ce qui m'interpelle, Starlight, c'est qu'est-ce qui t'a eu donné l'envie d'essayer?
J'ai vu passer ça et je me suis dit, j'aime bien essayer les trucs
sur
comme
ces
ça.
Groupes à la con. Hein.
Ouais. Non, mais tu veux savoir ce qui m'a donné envie? C'est les vertus qu'on reconnaît au kéfir.
Voilà. Vas-y, fais péter.
Voilà, alors. Fais péter les kéfirs.
Est-ce que c'est un
antiride? Justement, il y a ça comme vertu.
Est-ce qu'il y a antiride, antioxydant, anti-machin?
Alors, ça régulerait le système digestif.
Ah oui, facilite
la digestion, le transit intestinal.
Ça fait l'action d'un karcher, comme tu dis. Quand ça
détoxifie les intestins, réduit les flatulences et les ballonnements.
Les réduit.
On en fait mieux caca.
Ce serait un super aliment riche en vitamines, minéraux, acides aminés et enzymes. La fermentation rend ces nutriments très biodisponibles, qui réduiraient les envies de sucre et de malbouffe et augmenterait l'énergie vitale. Je mets tout au conditionnel parce que ça contribue à l'homéostasie du corps. Ça tranquillise le système nerveux, donc bénéfique pour ceux qui souffrent de dépression, troubles déficit d'attention. Marius, tu prends 4 litres. Hyperactivité, stress, insomnie pour Christophe. Détoxifie le foie, ça c'est pour nous, ma bidouille.
En fait, c'est surtout pour ça qu'elle l'a pris.
Permet un meilleur métabolisme des toxines. parfait, ça. Donc, peut améliorer la vision.
Ah oui, ça, je veux, je suis preneur, je veux.
Voilà, ouais. Je crois même que ça a déjà rendu la vue à quelqu'un.
Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment une boisson économique pour tout le monde, là, autour de la table.
Bah oui.
Pour le coup, il y en a pour tout le monde, quoi.
Mais c'est clair.
Mais oui, mais, et en mais plus, là, vraiment, ça m'a rien coûté. Là, pour le coup, ça m'a coûté une figue, une rondelle de citron et ça de jus de pomme bio.
Il paraît même que si tu le mets dans ton unité centrale, ça la répare et ça guérit les chagrins d'amour aussi.
Allô, allô.
Et donc, puisque le kéfir rebalance tout l'écosystème interne, il contribue directement à une santé optimale et à la longévité. Moi, j'ai dit, il faut que je teste ce truc.
Alors,
déjà parce que ça me paraît, j'avais envie de voir ce que c'était que
alors,
ce truc-là.
Une question que tout le monde se pose, est-ce que ça fait grossir la verge?
C'est vraiment une question que tout le monde se pose.
Apparemment, oui, si tu la trempes dedans et Nico vient d'essayer.
C'est-à-dire qu'il arrivait à passer.
Heureusement, ça ne grossit qu'après, au bout de 2-3 minutes.
Sinon, tu casses la bouteille.
Tu as eu l'occasion de la goûter déjà?
Alors, pas celle à la pomme. Moi, j'ai goûté plusieurs boissons. Alors, le truc, c'est que quand tu réveilles tes grains de kéfir, ça pétille pas. Ça ne fait que pétiller après plusieurs fermentations. Il faut le temps vraiment de relancer le grain. J'ai pas eu des grosses bulles et j'ai fait Morito, c'était super bon. J'ai pas mis de rhum, hein. J'ai mis menthe citron vert.
Ça t'aurait flingué les graines de kéfir.
Ah, non, mais en deuxième fermentation, toujours t'aromatises. La première, c'est toujours citron, figue, sucre.
Et ça, tu peux pas changer de fruit bio. C'est toujours figue.
La première fermentation,
citron.
C'est ce qui te.
Donc il faut de l'acidité, avec ces produits-là.
À part le citron.
Du sucre. Et du sucre bio. Pareil, il faut vraiment.
Oui, il faut l'alimenter bio, en fait. Quoi.
Bah, du sucre.
Du sucre blond, bio.
Du sucre raffiné.
Sinon, tu tues ton truc, en fait.
Mais alors, on trouve que du kéfir de pomme, est-ce qu'il y a des autres...
Non, là c'est du kéfir,
non, c'est...
Du kéfir nature, non, c'est moi qui l'aromatise de en deuxième fermentation.
Oui, mais au départ, tu dis que le kéfir vient du fruit, enfin vient des fruits.
Le kéfir de fruits.
Non.
Non.
Bah, c'est
le kéfir,
les graines,
on sait pas d'où il vient.
Moi j'ai du mal avec
le kéfir. Reviens pas là-dessus, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, dans des outres.
Les graines, elles étaient dans des jourtes quand ils transportaient le lait.
Elles étaient dans les ours.
Des loutres.
Dans une yourte. En fait, le kéfir est né dans une yourte.
Non, mais il y a du kéfir de
on met des boissons.
Voilà.
Vu la couleur, il y a un accouplement d'un berger avec une loutre.
Il y a du kéfir de lait, du kéfir de fruits.
Absolument. Oui.
Et donc c'est différent du kéfir de lait.
Le kéfir de lait, tu le conserves dans le lait. Et ça s'alimente différemment. Tu peux faire des fromages frais avec le kéfir de lait. Je pense que je vais essayer aussi.
Ça va faire comme de la faisselle, en fait.
Je comprends pas.
Je rejoins la question de Christophe. Du coup,
c'est pas
le même.
Est-ce que
c'est au départ le même grain qu'on retrouve pour
non,
faire le
kéfir
de lait?
Non, parce que
le kéfir
de lait, c'est la même forme à peu près, sauf qu'il est plus opaque, il est blanc. Celui-là, il est
mais
trop transparent.
Je vois ce que veut dire Christophe.
Moi aussi.
Oui, je comprends.
Qu'est-ce que c'est comme bacon?
Bah oui, mais je ne saisis pas d'où vient le.
Je pense que c'est pareil dans des outres avec de l'eau.
Oui, mais c'est une génération spontanée.
Un secret,
mais c'est quoi?
C'est pour
sais
ça
pas.
Que tous les gens se comme
c'est animal, c'est végétal, c'est un
c'est ça,
champignon, c'est un.
C'est ce que
bah,
je
le celle du lait, c'est forcément animal et celle du fruit, c'est végétal.
C'est exactement ça. En fait, tu cutes.
Le lait, c'est animal.
Mais non, tu les as trempés dedans.
Bah oui.
Moi, j'ai un pote qui m'animal.
Mais il les a pas mis.
Le kéfir de lait a besoin d'une matière animale.
C'est comme la
poulée et l'œuf.
Voilà.
Par contre, tu peux faire quelques.
Elles se sont créées dans le lait.
Tu peux mettre du kéfir de fruits dans du lait de soja.
Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut créer ses propres grains de kéfir?
Voilà, c'est
mais
ça
on,
la question.
On peut, bah, oui, mais ça. À partir de quand on a déjà.
Et la deuxième question, là.
Bah, donc, je sais pas.
Deuxième question que tout le monde se pose. Deuxième question que tout le monde se pose.
Est-ce que ça fait grossir
les... Non, est-ce qu'on est obligé de goûter en fait?
Ah oui.
Bah écoute, moi je pense que c'est pas mauvais. Enfin, j'ai à la pomme, j'ai jamais goûté.
J'ai une question. Est-ce que ça se boit? Est-ce que ça se peut se garder au frais?
Frais ou frais?
Alors,
ou est-ce qu'il faut garder à température?
Première fermentation, température ambiante. Deuxième fermentation, température ambiante. Plus tu vas laisser fermenter, plus il peut y avoir un petit degré d'alcool, mais genre 2 degrés maximum, je pense. Et une fois que t'as terminé, pour stopper la fermentation, tu mets au frigo. Ça arrête
bombe.
Ta fermentation.
Ouais, donc c'est une question de
et
température.
La boisson, Ludo,
ça nettoie les glandes sexuelles. Tu sais, je dis ça au hasard, je vois cette phrase-là.
Ah, oh, tu vas pouvoir te vider les couilles.
Ça nettoie les glandes, hein, pas le gland.
Vous vous
pourrait aussi avoir quelques désagréments.
Est-ce qu'on goûte?
Mais,
oui.
Bah, ça, par exemple, ça se conserve combien de temps?
5 jours.
8 ans.
Et ton histoire tout à l'heure de 24 heures 48, tu sais, par rapport
c'est les fermentations.
Ça, c'est pendant
la fermentation. Mais là, une fois que la boisson est faite,
la feuille
après. Ça fait quoi dès que ça a passé
alors,
8 jours en fait?
Tu peux partir
en
vacances? Dans le fond, ça recommence à.
T'as un dépôt.
C'est un dépôt, c'est de la fermentation. En fait, c'est comme une bière artisanale, si tu veux.
Plutôt.
C'est pareil.
Donc, c'est vivant aussi ?
Non.
Là, la boisson, c'est bon, c'est plus vivant, tu peux y aller. Mais tu sais, ta bière, elle est vivante.
Du coup, il y a beaucoup de sucre dedans ?
Mais pas du tout, parce qu'en fait, la bactérie, elle a mangé le sucre. Donc, c'est pas du tout sucré. C'est assez diététique finalement
mais
comme
ça. Mais ça a un goût sucré quand même malgré tout.
C'est un goûter. Goût qui est pas. J'aime pas trop le sucre moi. C'est pas un goût désagréable. Tu vas voir.
Ouais, va et plus sérieusement par rapport à tout à l'heure là, quand tu disais les scientifiques se penchent dessus.
Ouais.
Là, justement pour rejoindre la question de Christophe. Là quand les gars des gars sérieux se penchent sur cette graine, qu'est-ce qu'ils par rapport à son origine.
Bah ouais,
justement, il disait que.
Ils analysent. Enfin, ils partent de.
Ils commencent à confirmer les légendes comme quoi ce serait un super une super boisson qui sert à tout.
Mais sur son origine.
T'as un meuble à décaper.
Ça, je sais pas, par contre. Je sais pas.
Tu veux pas l'ouvrir dehors ?
Je pense. Tu veux bien, chérie ?
Ah, c'est à ce point risqué.
Putain, ça va te péter à la gueule.
Moi, je dis qu'il faut filmer ce moment.
Et ça se trouve,
ça me donne pas l'impression.
Et ça se trouve, ça va rien faire du tout. Hein.
Bah non,
c'est possible. Je l'ai pas rempli à fond parce que.
Alors, pas au-dessus de mes fauteuils !
Non, ça donne pas l'impression d'être quand même.
Non, bah, montre-nous ! Bah oui, montre-nous quand même.
Alors, donc Nico est dehors, il ouvre la bouteille de kéfir.
Attends, on va photographier au moins là, l'ouverture.
Ça se trouve, ça va être trop nul.
Bah, je vois rien en fait.
On va s'en prendre plein. Là,
ça va ressembler à un pet de fouf.
Mais vise pas l'intérieur.
Ah, il y a eu un petit shoot hein, quand même.
Petit. Qui c'est qui l'a maîtrisé ?
Il y a eu un shoot ou pas ? Oui, hein.
Un petit
ouais. Alors hop.
Qui n'en veut ? On va tous crever.
Mais non, tu vas voir, tu vas être super beau.
Donc là, il y a pas eu 24 heures de fermentation.
Là, je l'ai fait hier matin.
Ouais,
oui, 24
mais pas trop,
heures.
Mais pas trop, ça sert à rien.
Là, il est laxatif.
Là, on va
il est laxatif, hein là. D'accord.
Vous savez que l'hôpital le plus proche, il est quand même loin. Hein.
Alors, ce qu'on préconise, en fait, c'est.
Non.
Et ça se trouve, dans 200 ans, la Terre sera dominée par le kéfir.
En fait, c'est ça. Ce sont des extraterrestres.
Non,
qui ont trouvé le meilleur moyen.
Organisme, c'est ça.
On va devenir des kéfiens.
C'est très bizarre.
Ah bon, c'est bizarre.
Ah oui,
je me transforme en kéfir.
J'ai jamais goûté à la pomme.
J'en avais versé sur le portable.
Ah, c'est bizarre. Alors,
attention, ouais. ça attaque les portables.
T'as pas le goût de pomme, t'as le goût d'un cidre.
C'est le goût de cidre. Un cidre éventé.
Nico, ouais. Juste deux doigts. Hein.
Ça donne bien envie, un cidre éventé.
Ça rappelle certains sirops de notre enfance. Je sais
non. Pas. Ah, l'anthésite non.
Ah oui, ça sent.
Non, ça sent. Oui. Tu sais, ça un vieux cidre.
Ouais.
Et puis, il y a un goût de rose aussi.
Ouais, il y a.
Ça fait un goût de rose.
Ah, écoute, c'est dommage.
Il y a un goût de loutre.
Mon verre est encore plein.
Freddy, là, vraiment, là, c'est un foussard. Hein.
Il y a un goût de loutre.
Il faut quelqu'un pour vous emmener à l'hôpital.
T'en as pas pris, Nico ?
T'as pas un goût de médicament, un peu, non ?
Si, t'en as un, il est gros, regarde. Il est là, il est énorme.
C'est encore plein.
Allez, Nico, sers-toi.
Bon, je sors pas la deuxième bouteille, si j'ai bien compris.
Mais si t'as pas de verre, bois-le à la bouteille.
Donc, l'idée, ce serait
c'est pas du tout pétillant.
Tu veux le fond, peut-être ?
Parce qu'il n'y a pas eu le temps de fermentation, peut-être. Mais c'est.
Oh là 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 là.
Oh putain,
c'est désaltérant.
Et vous avez bu le
bah
kéfir et le parasol s'est envolé.
Dès qu'on a commencé à le boire, il se transforme en kéfir, le parasol.
Ouais, bon, c'est pas fameux à la pomme. J'avais bien aimé, moi, vraiment, menti.
Il y a un arrière-goût de tournée.
Mais
tourné,
tu, sens
en
la
fait.
Non, tu sens la figue en fait. On la sent en arrière-goût, je trouve.
Il y a un arrière-goût de tournée.
Moi, je trouve qu'on sent bien la figue.
Ouais.
C'est ça, tu dis quoi, tournée ou la figue ?
Il y a un arrière-goût qui me dérange.
Après,
au nez, c'est super bon. En bouche, c'est pas
non,
top.
C'est pas mauvais, moi je trouve que ça.
C'est pas, je trouve pas ça mauvais.
Non, c'est pas mauvais.
Quand même, bon, c'est pas incroyable.
Un truc, ah non, je peux pas. Non,
c'est vrai, bon, bah, vas-y.
Intérêt à avoir des vertus, hein, parce que
il y a un goût de tournée pour moi.
Je préfère l'odeur.
Pas des vertus, la
dévérue. Oui, mais je comprends. Non, mais c'est le goût.
Au nez, il est d'enfer.
Je trouve que c'est le goût de cidre vraiment fermier, mais qui a plus de bulles.
Freddy prend mon verre.
Ouais, c'est possible.
Non, écoute, je vais plutôt prendre du gâteau.
Bah là, pour le coup, je veux bien un bout de gâteau pour faire passer, parce que.
Et tu n'as pas une menthe citron vert ?
Bah, je l'ai fini. J'aurais dû la ramener. Mais c'est vrai que c'était meilleur. Menthe citron vert, c'était vraiment meilleur.
Menthe citron vert.
C'était très bon.
C'est la deuxième fermentation, ça. Quand tu mets
la deuxième. Oui, quand tu mets ton goût, en fait, c'est la deuxième fermentation.
D'accord.
Là, je comprends que ça te donne envie de faire caca.
C'est vrai, tout de suite, là, maintenant ?
Non.
Ça agit vite. Hein.
C'est radical.
Et donc, l'idée, ce serait d'en boire un litre tous les jours, voire tous les deux
jours.
Alors, ça va rester une idée.
Hein.
Non, en boire un grand verre à jeun, en fait, ça
Parce que si c'est laxatif.
Par contre, c'est vrai que c'est pas très sucré, c'est agréable.
Ça, bah oui, c'est frais. Et puis, je pense que quand j'arriverai à avoir. Mais le finis pas, vomis pas non plus.
C'est pas tourné, mais.
C'est fermier, quoi. On sent le.
On sent que c'est ça la maison, ouais.
C'est fermenté, donc forcément, il y a des champignons, des bactéries, des trucs, quoi.
Tu crois qu'il vient. Vous, alors finalement, le kéfir, il vient d'où, pensez-vous ? Je l'ai gratté dans le fond de la cave.
Bah, je pense que c'est une espèce extraterrestre qui.
Ouais.
C'est une...
Et d'ailleurs, je crois que Ludo, la prochaine fois, nous parlera de kéfir, fais-moi peur.
Bon, bah, comme ça, au moins, vous aurez
goûté. Que ça existe.
C'est marrant parce que quand tu regardes ces petites bulles à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a un noyau, une cellule.
Bah, qui se divise, en fait. Ouais.
On a l'impression que là, j'ai des petites méduses, en fait.
Si je l'ouvre,
on sent que Nico n'a pas envie de te remercier pour cette chronique.
Ça sent le sucre.
Non, on repasse à tête à la gorge.
Ça sent le sucre. Non, tu fais une tête genre bizarre.
Ça manque pas de retour.
Ça sent un peu comme une levure en fait.
Freddy, j'aurais aimé avoir ton courage, le courage de refuser.
Moi, ça va super, hein, je sais pas vous.
Ludo, Ludo, où es-tu parti?
Ceci est officiellement le dernier enregistrement de l'entrepôt pour celui qui le retrouvera.
Bon, je sors pas la deuxième bouteille.
Non,
non, pas de menace non plus. Quoi.
Freddy sera le survivant, il pourra pouvoir.
Oh, c'est con, j'aurais dû vous ramener menthe citron.
Non, mais en même temps, c'est vachement bien d'essayer. Moi, je trouve courageuse.
Non, mais c'est sûr. Ah, il faut, hein, il en faut des comme ça.
Bon, vous êtes content d'avoir goûté? Bah oui, moi je suis.
Au moins, je connaissais pas du tout.
Moi non plus.
Moi non plus.
Super,
Starlet. Il y a ce paradoxe entre le goût au nez et le goût dans la bouche.
Ah, alors, retour d'expérience.
Boire du kéfir a des bienfaits pour la santé, mais ce n'est pas sans danger.
T'as vomi? Il est allé sur Internet. Ah, ah bon?
Oui.
C'est le même site que Marius avait trouvé. Vas-y, dis-nous.
C'est-à-dire en fait, il t'explique que si c'est mal préparé, ça peut être toxique. Si c'est trop au soleil, à la lumière, ça peut être toxique parce qu'effectivement,
des champignons dedans.
Et l'histoire du métal, c'est pas tellement que ça meurt, c'est surtout que ça crée des
C'est cancérigène. Ça.
Voilà. Voilà. Exactement. Et ils disent que pour certains estomacs fragiles ou certains systèmes digestifs fragiles, ça peut foutre le bordel, puisqu'évidemment, la diarrhée ou les maux d'estomac, c'est que justement, ça peut déséquilibrer une flore. Si j'imagine, tu en bois régulièrement. Voilà.
C'est bien. En verre.
J'ai tapé kéfir, danger, et en fait
du
voilà.
Du coup, Christophe éponge le
mec. Il a tapé ça au hasard.
Ils disent que, comme toute boisson fermentée, voilà, ils expliquent un petit peu le principe.
Ça fermente dans ton estomac et dans ton intestin, je te dis pas.
Parce que ce que tu disais, en fait, ce sont des.
Ça, c'est les lobbies de Coca-Cola.
Des enzymes, des bactéries, en fait. Voilà, c'est ça l'origine. On peut donc l'origine, c'est que ce sont des bactéries.
C'est un peu ce que nous évoquait d'ailleurs Lucas quand on l'avait reçu sur la bière.
Mais on regardise.
C'est le principe. De voilà, c'est ça, exactement.
Et il nous en avait parlé pour la bière. Attention, effectivement, il y a certaines phases qui sont importantes.
Exactement. Donc, tout ce que disait Starlet tout à l'heure, il faut respecter, c'est quand même une préparation là-dedans. Il faut juste le savoir.
Merci, Ludo. Ah
bah, moi, je peux reprendre.
Eh ben, vas-y. Ah bah, vas-y. Hein. Tu veux finir nos verres?
S'il y a une auditrice qui est intéressée, j'ai bientôt être célibataire.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait.
Allons boire un litre par jour. Hein,
ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'axétif, il parlait carrément de diarrhée.
Mais t'en bois de.
Si vous avez un ulcère à l'estomac,
j'en suis non, je dois.
Un litre de kéfir par jour, et ben il disparaît au bout de 2 mois.
L'autre de l'estomac.
Ulcère. Ouais.
Ah, c'est vrai qu'à la pomme, c'est pas le meilleur. Hein. C'est le moins bon de tout ce que j'ai fait, en fait.
Ah, tu vois.
Comme par hasard. Hein.
Non, mais je vous en referai. Hein,
c'est dommage.
Oh, t'es gentil.
Manque citron vert.
Oui, ça me tente très bien, ça. Manque citron vert, ouais, carrément.
Freddy, puisque toi, tu vas être super en forme, tu vas peut-être pouvoir nous préparer ton quiz.
Oui, je vais prendre ta place, d'ailleurs.
Qu'en penses-tu? Ah oui, mince. Enfin, mince.
Bah, non, mince. Bien, est-ce que tout le monde est là?
Ouais.
Enfin, encore là.
Plus pour longtemps.
Bon, un petit quiz multi-actu. Il y aura une partie ciné, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Festival de Cannes ouvre ses portes ce mardi 8 mai. Oh, 71e édition.
Carrément, j'étais sans savoir.
C'était quiz, aujourd'hui,
ce soir.
Un petit quiz ciné. Il y aura aussi un petit quiz musical. Vous savez qu'on parle beaucoup de mai 68. Je vais vous passer la bande-son de mai 68 et c'est vous qui allez me donner les réponses.
Ah oh, putain ouais.
Et puis, tu vas gueuler comme un petit quiz what the fuck avec 6 questions qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais qui sont intéressantes et qui vous donneront un point pareil. Qui note les points?
Moi, je veux bien le noter parce que...
Il y a une question pour nos auditeurs, hors note.
Bien sûr, avec un cadeau à gagner. Un cadeau qui est le livre de Benjamin Adam qui s'appelle 2 mois à Rouen. C'est le journal de résidence de Benjamin Adam. Vous savez, Benjamin Adam, on l'avait eu au micro de l'Anthropode lors de notre émission de Normandie Bulle à Darnétal.
Et toi, tu l'avais eu en interview?
Et je l'avais eu en interview. Après, je sais pas si vous vous souvenez, il était passé à notre micro et 10 minutes après, on savait qu'il avait le prix du scénario pour Prévert et Lartigue.
Tout à fait.
Voilà,
Lartigue et Prévert.
Lartigue et Prévert, ouais, bien vu. Un garçon charmant. Et figurez-vous que j'en parlais l'autre jour avec notre ami Fred du Grand Nulle Part, une boutique à Rouen, un libraire indépendant. Et il me dit, figure-toi que j'ai encore ce journal de résidence de Benjamin Adam, de moi à Rouen. Est-ce que tu en veux un? Oui, évidemment.
Alors, il me le donne.
C'est passionnant comme.
J'ai vu une anecdote.
Ludo, je voudrais pas foutre la merde, mais c'est le même gars qui dit que tes chroniques sont soporifiques.
Non, mais attends, j'y dis merci. Il me dit de rien.
En tout cas, voilà. Il lui donne le truc. Et est-ce que tu l'as mis dans du lait ou de l'eau, du coup, quand tu l'as donné?
En tout cas, il est à gagner pour les poditeurs. La dernière question tout à l'heure sera pour gagner ce journal de.
C'est un livre, Marius.
Oui, on y va. Est-ce que tiens, vous voulez quoi?
Vous dessiner.
Vous voulez quoi? De la musique, du ciné?
La musique.
Oh, c'est toi le chef, hein, chef.
Ah bah oui, on voit ce que tu veux. On voit la purée.
La musique.
La musique.
Par contre, Delphine, attendez, faut peut-être que tu remettes ton truc dans ton ta plantation là.
T'as peur qu'elle se
Non, mais tu dis qu'il faut pas, faut que ce soit au froid.
Mais non, là, il est réveillé, c'est pas au froid.
Oui, bah
s'il
se réveille le matin.
Mais en même temps, Ludo a lu que c'était dangereux quand on laissait trop au soleil.
Parce qu'au soleil.
Bah oui.
Je suis devant quand même.
Un point pour Arnaud. Oui, parce qu'à partir de maintenant, une bonne vanne égale un point. Bah, allez, musique.
Une mauvaise.
Moi ?
Musique. Moins un,
ouais. Allez, musique, fais péter.
Je vous lance le morceau, vous me donnez l'interprète, l'artiste ou le groupe.
Silence.
Ah oui, c'est Simon Garfunkel.
Je dirais plutôt Starlet, effectivement.
Ici Robinson.
Ouais, ouais, je le laisse un peu parce que ça fait longtemps.
Film de Mike Lee, non ?
Avec Dustin Hoffman.
Mike Nichols.
Putain, pardon. Merci.
Merci.
Allez, morceau suivant.
Doors, les Doors.
Ouais, ouais, bien vu, Marius. Point Marius.
Hello, I love you, man.
Ouais, joli. C'est ça. On va pas plus loin. I love you, won't you tell me your name?
Hello. Je suis content. Hello,
I love you. Suivant.
Jimi Hendrix.
Non.
Hey, arrête à Franklin.
Beatles.
Ah oui, mais merde, oui.
Putain, je l'avais aussi, ouais, celui-là.
Merde. Le titre, tu
l'as. Love of Pool.
Chain of Fools.
Je l'ai chanté, celle-ci.
Ouais. Attention, très facile.
Les Rolling Stones.
Ouais, joli. Ouais. Le titre
Les Rolling Stones.
Satisfaction.
Non.
Jumpin' Jack Flash.
Jumpin' Jack Flash.
Ah oui, Jumpin'.
J'étais sur Brown Sugar, mais non. C'est...
Le point pour Ludo. Suivant.
Otis Redding.
Otis Redding. Arrête ta
James Brown.
James Brown, le point pour Ludo.
Putain, ça sonnait trop.
I got the feeling.
Ah, c'était pas ça.
Bah oui, bah ça sonnait trop.
Ah, je suis sûr qu'en cherchant bien, c'est ça en fait.
Suivant.
Curtis Mayfield?
Non. Un groupe mondialement connu.
The Cream?
Non.
Fleetwood Mac?
Non.
Beach Boys?
Non.
Man Brothers?
Non, les. Bah, merde. Ceux qui. Merde. Oh, oui,
Les Bee Gees!
Ah putain.
Bon, je reconnais ce pot-là.
Passe décisive de Nico.
Bah, j'ai juste dit oui, c'est ceux qui chantaient les.
Mais je savais que tu l'avais.
Ah ouais.
Le point, non?
C'est la voix.
Ludo. Point pour Ludo.
Ludo.
T'as mis le mien?
Un classique.
Hendrix.
Ouais.
J'allais le dire.
Barbara.
All around the rest of the world.
Jimi Hendrix.
Putain, trop bien.
On est toujours dans l'année 68 et je vous balance le prochain morceau.
Janis Joplin.
Ah, ça c'est...
Les Shadows.
Johnny Cash.
Non.
Johnny Cash.
Johnny Cash.
Bien vu Arnaud. Point pour Arnaud. Christophe, tu notes les points, mais tu peux jouer aussi.
Oui, mais... J'essaye.
Il est bon joueur.
Alors, si tu peux me permettre, t'as mis ton casque à l'envers. C'est peut-être pour ça que... t'as pas beaucoup de points.
Tes cheveux aussi. Hein.
Ouais, je pense que c'est ça, en fait. J'entends mal. Il t'a très mal.
Allez, suivant.
Otis Redding.
Non.
Janis Joplin.
Ah, Ike et Tina Turner.
Non.
Johnny Joplin.
Non.
Diana Ross, les Pointer Sisters.
Non.
Al Green. Supremes.
Non.
Al Green.
Non.
Écoutez.
Bobby McFerrin.
Non.
Les mamas et les papas.
Non.
Thank you. Les Platters.
Qui a dit thank you?
Temptations.
C'est pas non. Les Earth, Moon,
Jackson 5.
C'est pas les Earth, Moon, Fire non. Déjà, non.
Je sens que ça va être un point pour moi.
Ceux qui chantent, papa, c'est papa,
mamas. Rolling Stone.
C'était la voix. Otis Redding.
Pas les Commodores, quand même, à l'époque.
Non. Personne?
Attends, il y a 3 minutes.
Ah oui,
sur le son. Je monte le son.
Merci. Ouais.
German Jackson, Jackson 5.
Non.
C'est très connu.
The Who.
C'est un peu.
Tower of Power.
Alice Cooper. Ah oui.
Sly and the Family Stone.
Ouais.
Oui.
Point pour Ludo. Bravo.
Ah putain, bah là, j'aurais jamais trouvé ça, moi.
C'est marrant que ça vienne après 2 minutes.
Ouais, mais c'est.
Sly and the Family Stone. Je connais pas. Génial.
Sly and the Family Stone.
Je connais pas du tout.
Allez, c'est parti.
Janis Joplin.
Deep Purple.
Il n'y aura pas Janis Joplin.
Ah merde.
The Cream.
The Who.
C'est un style bien particulier.
Ouais, ouais.
C'est pas Blue Oyster Cult, ça.
C'est anglais.
Bah les non. Beach Boys, non.
Non.
Non, c'est pas.
Black Sabbath.
Non.
Bah je tente, hein. Alice Cooper.
Non.
Genesis.
C'est un groupe connu.
C'est pas Grand Funk Railroad.
Non.
C'est
non.
Français.
C'est pas français.
Il y a une voix féminine.
Oui, c'est assez,
oh,
assez.
C'est pas le Grateful Dead.
Non.
Jefferson Airplane.
Oui, Jefferson Airplane.
J'allais dire.
Je n'avais jamais entendu ce nom-là.
C'est vrai.
Lui, ça regarde.
Bien vu, Ludo.
Bon, faut dire, j'étais pas né, moi.
Attention, le prochain. On a déjà entendu le nom parmi les propositions.
Janis Joplin.
The Who.
Deep Purple.
Alice Cooper.
Fleetwood Mac.
Curtis Mayfield.
Merde.
Je mets un peu de son.
The Cream. Here is Mama Cats.
Stars shining bright above. Diana Ross, non. Night breezes
seem to whisper. Belle chanson.
Ah, bah, carrément.
Tu mets tout le monde la connaît, mais
parce que c'est alors c'est qui qui fait ça?
Dream a little dream of me.
Fils Sinatra, non, non, fils Sinatra.
Et on l'a déjà dit tout à l'heure.
Ouais, j'ai déjà entendu parmi
non.
Même plusieurs fois. C'était même assez lourd. Là.
C'est pas Janis Joplin,
non. Just hold me tight and tell me you love me
while I'm alone and blue as can be. C'est un groupe.
Led Zepp.
Non.
Fais tout de mal.
C'est pas les mamas, c'est les papas.
Oui. C'est la main noire. Attention, là, c'est rapidité.
Beatles.
Beatles, Beatles, ouais.
Arnaud. Le titre.
Hello Goodbye.
Hello Goodbye.
Non, c'est No No No.
Le titre.
You say goodbye.
T'as un ou l'autre, j'ai un tueur sur deux. Je me suis planté, c'est bon.
Attention, le seul titre en français de cette playlist.
François Sardy.
Oui.
Sans aucun complexe.
Bien joué.
C'est comment te dire adieu.
Oui, je sais. Je voulais chanter.
Ah, mais c'est pas ça.
Mais non, mais là,
non, mais ça ira, ça ira.
Non, mais faut pas. Arrêtez, madame.
Sans aucun complexe. Prétexte.
C'était même pas ça.
Vivre sans complexe.
Grand classique, c'est parti.
T'as incliné,
Deep Purple.
Écoutez bien cette intro.
Deep Purple. Joe Cocker.
Joe Cocker.
Joe Cocker. Joe Cocker. Joe
Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe
Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker.
Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker.
Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker.
Joe Cocker. Joe
Cocker. Joe Cocker.
Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker.
Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe
Cocker.
Attention, il reste deux morceaux. Voici l'avant-dernier.
C'est
un live.
C'est pas les arrangements.
Non, comment il s'appelle?
Attends.
Mais si, le poète américain.
Elvis.
Non.
Ah oui, Jonathan Cohen.
Ah non.
John Baez.
Non, c'est moi.
Il y a un petit peu de aussi.
John Baez. Ludo, dès qu'il s'agit de se vider les couilles.
Ah non, je l'ai dit avant toi, je suis désolé. T'es déçu, mais je l'ai dit avant toi.
Chanson reprise par Bob Dylan.
Ouais, moi, je crois que j'étais le troisième à le dire.
Et. Oui.
Dernière. 68 toujours. C'est parti. C'est à vous. Très reconnaissable.
Babe, I Got You, Babe, Sonny and Cher.
Non.
Ah bon? Pretenders.
Non.
68.
C'est pas Jethro Tull, ça?
Non, non plus.
C'est.
Ça fait I Got You, Babe.
Bah non.
Carpenter.
Oui, c'est Velvet Underground.
Ouais, bien
joué.
Je suis content parce que vous avez tout trouvé, même ceux qui n'étaient pas faciles.
Ouais. Lulu a tout trouvé.
Et chez Kamsina.
C'est surtout Ludo, et c'est un spécial Lulu quand même. Hein.
Un petit point sur les scores.
Alors,
Christophe. Bah évidemment, tout le monde a 2.
Évidemment.
Christine 1 et Ludo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et toi, t'as combien?
Ouais, quand même, ouais.
Moi, j'ai.
Bah, il compte pas.
J'ai 10.
Pourtant, là, il devait y avoir quelques trucs qui te parlent.
Bah oui, pourquoi tu joues pas, toi?
Si, mais.
Pourquoi tu t'en moroses dans ton coin comme ça, là? Vas-y, participe.
Ah, non, mais je trouvais pas, sinon j'aurais participé, franchement.
Attention, la prochaine séquence, c'est une séquence cinéma en hommage au festival.
Tu vas l'avoir lu, bah tiens, c'est bizarre.
Des bandes annonces en VO, c'est ça?
Mais excusez-le d'être intelligent et cultivé. Enfin,
c'est incroyable. Tu lui demandes une recette de cuisine, il sait pas faire.
Cultivé peut-être, intelligent, on peut pas aller jusque-là.
Bah, voilà. Je ferai des YouTube recettes de cuisine la prochaine fois.
Pas sûr.
Alors, je vais vous. Comme d'habitude, je vous lance une petite. Une bande-annonce de film en VO, en VF. Et c'est à vous de trouver.
Le téléphone sonne toujours deux fois.
Alors, c'est quand tu paniques que t'arrives pas à décrocher. Ouais.
Donc, c'est quoi, tu passes à la...
Est-ce qu'on peut jouer, Arnaud? Est-ce qu'on attend un autre appel?
Donc, c'est quoi, c'est une. Tu dis?
Je lance une bande-annonce ouais. De film.
Pas de thématique particulière.
8 points à trouver.
Oh, bah, c'est mort.
Qui ont été.
Si, ouais, tu fais bien de demander. Ouais, ouais. Ils ont eu la Palme d'Or à
Cannes. Ah, bah oui.
Ah, oui. Quand c'est en anglais, tu
nous l'avais déjà fait, ça?
Ouais, j'ai déjà fait, ça avait bien
marché. C'est rigolo. J'avais déjà été mauvais, il me semble.
Oui, il me semble aussi, ouais.
C'est Arnaud qui a été bon à ça.
Allez, c'est parti.
Regarde des films chiants qui passent à Cannes.
Shining.
Des films qui ont eu la Palme d'Or.
Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace. Non.
Dans un précédent film,
la planète des singes.
Les critiques saluèrent en lui un nouveau grand comédien. Après Mean Street, ils crièrent au génie.
Citizen
Kane. Il était une fois en Amérique.
Reggie Bull.
De Niro reçut l'Oscar.
Allez vite.
Taxi Driver.
Ouais, Nico. Taxi Driver.
Robert De Niro.
Faites chier, j'allais le dire aussi, bordel, vous êtes trop rapide, c'est chiant. Je joue plus, ça m'énerve.
On regarde pas comme ça.
Arnaud, il prend ça très à cœur.
On joue ou on joue pas. Hein.
Extrait suivant, bande annonce suivante. Écoutez bien, la musique, c'est un indice.
La pluie.
Ouais, tiens.
Dracula.
Emir Kusturica, Chat Noir, Chat Blanc.
Ouais.
Non.
The Freaks.
Non, c'est Underground. Ça quand même.
Underground.
Putain, enfin.
Passe décisive d'Arnaud.
Arnaud, il va sauter par le. Il va boire tout le kéfir cul sec, tu vois. C'est pas grave, si je peux contribuer
d'ailleurs,
au point
de
des autres,
moi.
C'est une demi-victoire.
C'est le.
Deux extraits et deux fois qu'Arnaud dit culé. Hein, je vous remets un petit extrait.
Ah,
musical.
C'est bon ça.
Chat Noir, Chat Blanc n'a pas eu la Palme d'Or. À la différence de Underground.
Allez, tiens, prends ça en les dents.
Allez, suivant. Écoutez, il n'y a pas de musique tout de suite. Écoutez bien ce qui se dit. Ah bah si, il y a de musique tout de suite. Moi, je vais préparer à l'arrache.
Ah bah, finalement, il part pas.
Les Dents de la Mer.
Non, on n'a pas eu la Palme d'Or.
Apocalypse Now.
Non.
2001, l'Odyssée de l'espace.
Non.
Vous m'entendez?
Oui.
Je ne l'appellerai pas, papa. Je ne l'appellerai pas, c'est tout.
T'as pas eu ton voyage d'affaires?
Maman, j'ai raté l'avion.
Ah oui, Palme d'Or en 83.
Je dois faire un échange.
La vie est belle.
Quoi?
Écoutez.
Le piano.
La leçon
de
piano!
La leçon de piano!
La leçon de piano!
C'est un russe!
Excellent film.
Eh oui, c'est point pour Ludo, hein, je suis désolé, mais.
Putain.
Attention, là, ça va être rapidité.
Bah non.
Le pianiste.
Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or.
Pulp Fiction.
The best oui, picture oui, of oui, the
Cannes 14, Film en fait. Festival. C'est la doc.
C'est celui qui comprend mieux l'anglais qu'il trouve en fait.
Voilà, voilà, il manquait ça.
Ouais, comment t'as fait, comment t'as fait le rapprochement?
Il a dit 1994.
Je dis que c'est un film de Weinstein de
1994.
Aller
en Floride, il m'a demandé.
Bien vu. Bien joué, Arnaud. Suivant.
Facteur sonne toujours deux fois.
Attends, on m'appelle.
Paris, Texas.
Non, c'est Dancer in the Dark.
Oui. Ouais, c'était Björk qui parlait.
Enculé, tu l'as eu, enculé.
Lars von Trier, un film de Lars von Trier.
Avec Björk, évidemment.
J'aimerais bien le voir, celui-là.
Ça m'aurait énervé de le voir.
Bien, celui-là.
Super, ouais. Je vais adorer. Bien vu, Arnaud. On y va. Attention, un peu plus difficile.
Ouais, c'est pour moi, ça.
Là, c'est parti. Écoutez bien les détails et les dialogues. What are you doing, Dad?
I'm driving. You have the car, Dad. C'est l'anglais, hein.
Columbine.
Non.
Love Story.
Reservoir Dog.
Mrs. Daisy et le chauffeur.
Non.
Son chauffeur.
Septième symphonie de Chopin.
Chopin. Je crois que c'est Modard, non?
Mom.
Écoutez.
Le choix de Sophie.
C'est terrible, Sophie. Anna et ses filles. Ses sœurs, plutôt. Incendie.
Pulp Fiction.
Non.
Forrest Gump.
Non.
Incendie.
Je sais.
Au revoir les enfants.
A Reasonable Dreams. J'essayais de le dire.
Arnaud, on est pendu à tes lèvres.
Il a des lèvres, Arnaud.
Je n'ose plus parler parce qu'il va se prendre un coup par Arnaud. Le pianiste.
Non.
Il est mort. Le pianiste est mort.
Écoute, écoute.
C'est la redoute. Ouais. Chips.
Shining.
Et non, c'est la fin de la bande-annonce, donc je n'attribue pas ce point.
T'as des indices après, là?
Oui, quelques indices, parce que là, c'est...
Ouais. Des indices, Palme d'Or 2003.
Ah, 2003.
Voilà.
Arizona Dreams.
D'autres indices?
Ouais, t'as pas d'autres indices?
Blond.
Blond.
C'est avec Pierre Richard. J'ai pensé la même chose.
Et, mais encore. Blond.
Blond, c'est le réalisateur qui est blond ou
c'est un indice.
C'est pas celui que t'as été voir là, un peu space.
Oh ah bah il y en a un paquet.
Et oui, trop lulu, la, ah, la conquête spatiale.
T'as vraiment pas un autre indice?
Ouais.
Vas-y, donne un indice, vas-y, on est pendu à l'élève.
Lycée. Elephant.
Elephant. Elephant. Je sais pas qui a dit. Oui, mais... Et t'as oublié de dire enculé.
Ah non, quand
ouais, mais là on donne pas de points là.
Non,
si,
il y avait pas de points, il avait dit. Donc...
Ah non, il y a pas de points. Marque pas, enlève le point. Non, je l'ai vu marquer l'autre là, enlève le point.
Arnaud voulait gagner pour le principe.
Je voulais...
Il en reste deux. Il en reste deux. Je vous donne l'avant-dernier. Maintenant, une palme d'or encore.
Il y a quelqu'un.
Beaucoup de piano. Hein.
Le vieil homme.
C'est le film de Michael Haneke.
Amour.
Oui. Ah, bravo. Pas donné. Quelqu'un.
Merci.
Mais pourquoi tu dis ça? Je l'aurais pas trouvé.
Je sais pas qui l'a vu. Vous l'avez vu tous vu?
Non, non, pas vu.
En fait, j'ai pas envie de le voir.
Génial comme film.
C'est bouleversant.
Avec Trintignant et puis.
Ouais.
Ouais.
Et Romy Schneider.
Emmanuel Riva.
Darvos, ouais.
C'est ouais, c'est bouleversant. Allez, dernier. C'est parti.
L'Odyssée de l'espace. Odyssée 2001.
120 battements par minute.
Écoutez, écoutez.
Dans
cœur.
Pendant ça, il n'y en a pas. Vous avez fait quoi? Je peux m'avoir.
On a pensé après mon sens.
La vie d'Adèle.
La vie d'Adèle.
Et j'ai du sexe, quoi.
Palme d'Or 2013.
Si on n'a pas le droit de dire une de... pour vous laisser écouter, merde!
Mais si, mais quand tu parles, tu couvres tout le monde!
Bah non! Comme tout vous, quand vous donnez vos réponses.
C'est fini,
oui,
pour
c'est
la
pareil,
partie.
Je suis d'accord avec Didouille.
Merci Starlet!
Ouais!
Enculé!
Tu veux du kéfir, ma Didouille? Non,
mais. Eh ben c'était vachement bien, hein. Je suis content.
Un petit point
que
score,
plein des points.
Peut-être.
Vas-y, fais péter les points.
Ludo 9, Marius 3, Nico 3, Arnaud 5, Delphine 2, Christine 1.
T'as pas dit ton score à
toi. J'en ai un.
Non, tu l'as pas dit, Christophe.
Non, mais arrêtez.
Christophe, là même dans le cinéma, t'as rien trouvé. Non, c'est bizarre.
Ah, la musique,
non, mais change de métier, quoi,
rien.
Je veux dire.
C'est bizarre, parce que toi, t'es vachement cinéma, quoi. Je crois que je te vois.
Alors la prochaine fois, Fred, tu liras des extraits de livres.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bah là, je vais vous lire des extraits de.
Ce qui serait drôle, c'est. Pardon, je rebondis sur ce qu'a dit Didouille tout à l'heure. C'est que tu nous lises une recette de cuisine et nous, on trouve à quoi ça correspond.
Bah tu le feras,
tu le feras. Alors faites monter les blancs neiges.
Bah tu fais le test de Starlet comme ça.
Faites monter les blancs neiges. Rajoutez le sucre et la marmelade. Un peu de kéfi.
Donc là, on va se départager assez facilement puisque chaque réponse vaudra 2 points dans ce quiz What the fuck.
Wow.
Bah c'est...
Acculé.
On balaie.
Arnaud.
On balaie des thèmes assez divers pour contenter tout le
printemps.
Monde.
Oh putain.
Tiens, mais nous on est morts de rire.
Il doit perdre des points sur cette vanne, non?
Moins un. Culé. Allez, on y va.
Ah, c'est déposé ça.
Alors, pour quelle raison le footballeur Cristiano Ronaldo ne porte aucun tatouage? Vous savez que c'est la grande mode.
Il a une maladie de peau.
Non.
Maladie du sang.
Non.
Il est allergique à l'encre.
Non.
Il a peur de la piqûre. Pour des questions de contrat.
Il a un contrat avec...
Non, on vient de dire non.
Alexandre veut dire ta gueule.
sa religion interne.
Religion, ouais, pour une fois mort. Non, il veut...
Parce que sa mère veut pas.
Parce qu'il est noir.
Parce qu'il aime pas ça.
Non.
Alors, parce qu'il est noir. Il peut avoir des tatouages. C'est quoi cette question?
Parce que. Et
surtout qu'il est pas noir entre nous, mais.
Oui.
Il est pas noir.
C'est un problème de santé?
Non, enfin. Non.
Ah, enfin? Non.
Il a un mélanome sur la peau. Il a un mélanome.
Parce qu'en fait.
Ça a un lien avec la santé, mais c'est pas un problème de santé.
Il a peur.
Ah, je sais.
Non. C'est parce qu'il a une peau très
fine. Il gonfle.
Non.
Je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à retrouver le mot.
C'est ça le truc.
Si t'arrives pas à retrouver ce mot.
Il fait une allergie. Non, non,
il a peur d'avoir peur.
Est-ce que c'est lié au fait que...
Il trouve ça moche.
Non.
Est-ce que c'est lié au fait que... Est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est lié au fait...
Je t'écoute.
Est-ce que c'est lié à son activité sportive?
Non.
En gros, est-ce que c'est parce qu'il sue beaucoup?
Non.
Est-ce qu'il y a un lien avec le soleil brésilien?
Non, non.
Est-ce que
parce
que
son
portugais, portugais.
C'est un choix de sa part.
C'est un choix de sa part.
C'est un choix de sa part.
Oui, il le subit. Non,
non,
il a
c'est un choix.
C'est un choix.
Parce qu'il veut pour pas faire vieillir sa peau trop vite.
Non, non, non.
Il a un enfant dont il va faire une greffe de peau.
Non, mais on se rapproche.
Ah, c'est pour faire des greffes de peau.
Non.
C'est pour
qu'à la fin, il veut se réincarner. Il va se réincarner. Il veut pas être.
Est-ce que c'est lié au fait
Il veut se faire embaumer. Il veut se faire embaumer.
Il n'y arrivera pas lui. Il veut se faire cryogéniser.
Est-ce que c'est lié au fait
Mais je t'écoute depuis une demi-heure.
Qu'il est assuré et que son contrat d'assurance.
Non, non, non.
On a dit c'est pas un contrat,
pas contrat.
Creusez un peu la piste, Christophe. Là.
Il a dans sa famille, des gens qui sont issus, qui ont une maladie héréditaire rare. Et lui a besoin de transmettre.
Mais riez pas, c'est la réponse la plus intelligente pour l'instant. Non, mais tu te rapproches encore.
Putain. Parce que je sais pas s'il veut donner ça à l'humanité, ouais. Parce qu'il est super
gentil. C'est parce qu'en fait.
Il veut donner sa peau à l'humanité. Voilà, c'est.
Non.
En fait, c'est.
Il est donneur d'organes.
Il est donneur de peau pour l'humanité.
Plus simple.
Il veut sauver des enfants qui auraient une maladie de peau.
Oui. Eh ben non, moi, pas de peau.
Ouais. Qui auraient une maladie.
Ah, bah, tu peux ne pas parler fort non plus. Hein.
C'est des enfants qui auraient des problèmes auditifs, par exemple. Voilà.
Il est porteur d'un gène rare qui pourrait être utile à la science.
En tout cas, je ne donne pas cher de sa peau.
Aider les enfants qui souffrent et qui ont besoin d'un organe.
Avec pas de.
Des enfants malades.
Mais quel rapport avec pas de.
C'est pour son association.
Que les enfants,
il
d'ailleurs.
A une association pour aider les enfants.
Mais c'est moi qui étais le plus près quand même.
Pour être un donneur sain.
Parce que quand on est tatoué, on ne peut pas donner ça.
Oui, mais quoi?
Il veut donner ses plaques.
Ses gènes.
Son
ses
sang.
Ses gènes.
Il donne son sang. Bonne raison. Bonne réponse. Dans le sang. quand, oui, quand on, ah, quand on donne pas, son, on peut sang, pas donner son sang, voilà, quand on peut pas donner son sang pendant 6 mois.
Voilà. Bien joué.
Or, lui, il donne son sang très régulièrement. Ça, c'est pour cette raison.
Bravo.
C'est marrant.
Alors, si même ces points-là,
il y a des réponses tout à fait égoïstes depuis le début.
Et une fois sur le foot. Alors que c'est pas l'image qu'il donne de quelqu'un d'altruiste.
Exactement.
C'est pour ça que je me suis pas inscrit, moi,
une image de gros con.
Bah, surtout quand tu vois.
La dernière fois que j'en ai donné, j'ai failli tomber dans les pommes.
Moi aussi.
La dernière fois que j'en ai donné, je suis tombé dans les pommes. Ouais. Je suis tombé, ils m'ont mis les jambes dans l'air, machin, ils me tripotaient.
Ouais, j'ai attention qu'ils chutent en fait.
C'est bizarre ton truc, t'es sûr que
pourquoi vous mettez un doigt dans mon anus? Non, c'est pour te faire revenir.
Putain. Donne son sang dans les backrooms rouennaises.
Ouais, ça a été efficace quand même.
Ah bah, du
coup. Ça c'était pour le don de sperme, je crois.
Bon, une autre question. Bon,
c'est pour chaque question, c'est un quart d'heure. Celle-là, elle risque de durer un peu.
Il va faire 4 heures l'anthropode.
Et Jean-Robert a laissé sa place.
Qui a fait sa première apparition dans l'émission de télévision La Classe sur FR3 ?
Bigard, Pierre Palmade.
Attendez, le 8 janvier 91.
Muriel Robin.
Oh, tu penses bien que si je pose cette question, c'est que...
C'est une femme ou c'est une
Fabrice.
Un homme. C'est un homme.
C'est un homme.
Il est connu aujourd'hui ?
Bézu.
Il est très connu.
Bézu.
Il est il a pas longtemps. Il avait quel âge à l'époque ?
Franck Dubosc.
Il devait être tout jeune à l'époque, en 91.
C'est pas la gaffe, c'est pas Bézu.
Est-ce qu'il est grec? C'est Nikos.
Non.
Elise Moon.
Non.
Est-ce que c'est un
comique
travail aujourd'hui?
Non, bonne question.
Voilà. C'est pas un comique. Est-ce qu'un homme politique
il intervenait comme comique dans la classe?
Macron.
Il l'a présenté après Fabrice?
Non.
Non.
Macron.
Non.
Cyril Hanouna?
Non.
Est-ce que c'est un homme politique?
Non.
Un journaliste?
Non.
Un chanteur?
Ah, El Château.
Pas un chanteur.
C'est quoi El Château?
El Château,
un présentateur télé.
Non, c'est pas un chanteur, mais c'est un artiste.
Romeshko.
Il est principalement acteur aujourd'hui?
Acteur? Non, pas du tout.
Non.
Il est pas chanteur, il est pas acteur.
Ronaldo, il est foot présentateur.
Il est pas chanteur, mais ça s'apparente.
Ouais. Il est papa chanteur.
Des musiciens.
Jean-Luc Lahaye.
Tu veux dire que Grand Corps Malade était à cette époque-là?
Non, c'est pas ça que
Alain,
je veux dire.
Laurent Gérard.
Donc
il est chanteur, mais sans jet de chanteur.
Il n'est pas chanteur. Imitateur.
Non.
Alors, Grégorio, il était pas né, Grégorio. Il est très jeune, tu sais.
Est-ce qu'il fait des spectacles? Laurent Gérard.
Oui.
C'est un imitateur?
Non.
On le connaît principalement pourquoi?
Franck Boss.
pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais ce qu'il écrivain. A fait cette première fois à la télé.
Élise Moon.
Un magicien.
Pas un humoriste.
Il est écrivain aujourd'hui?
Non.
Est-ce que c'est très difficile? Est-ce qu'il est dans le milieu du spectacle français?
Oui.
Il écrit? Il a quel âge aujourd'hui?
Il écrit des textes, il est compositeur plutôt?
Il compose, oui, on peut dire ça.
Il a quel âge aujourd'hui?
Vincent Dolerme.
Il a 50 et quelques
années. Pascal Obispo.
Christophe Toutain. Tu veux dire que c'est quelqu'un de très connu, c'est ça?
Ah, mais de mondialement connu.
Ah, de mondialement connu.
Ah
ouais.
Il déconne.
Et je pèse mes mots.
Mondialement
connu. Même plus que ça.
De mondialement connu. Est-ce qu'il le fait seul ou il le fait avec d'autres
Zinedine
gens?
Zidane.
Il le fait souvent avec d'autres gens.
Au sein d'un groupe, par exemple?
Non.
Patrick Sébastien.
Mais alors, si tu discutes.
Il est sportif par ailleurs ou pas du tout?
Non.
Il court peut-être un peu le dimanche. C'est une activité artistique ou c'est pas?
Ah oui, complètement.
C'est donc un peintre peut-être?
Mesmer.
Non.
Musicien.
Un musicien, oui, on peut dire ça.
Il est chorégraphe musicien ou il est juste musicien?
Il n'est pas chorégraphe.
Il est un peu musicien.
C'est un des deux Daft Punk. Thomas Bangalter.
C'est Ron.
Non.
Le mec de R. C'est le mec de R.
Mais oui, c'est l'autre, est blond là. C'est
David Guetta.
C'est David Guetta. Encore une passe décisive.
Putain.
Et oui, puisqu'il intervient en 91 avec Sydney, H.I.P.H.O.P.
Ah oui,
ah oui.
Il intervient dans la classe pour un morceau.
C'est vrai?
Oui. Et lui est au platine déjà. Et donc il a plus de 50 ans, moi ça m'a mis un coup de vieux. On y va?
C'est une belle question ça. C'était
bon,
bien.
Là, normalement les autres vont être plus rapides. Enfin, je compte sur vous. Qui vient d'atteindre 96%? Un indice, ce n'est pas Vladimir Poutine.
Ah merde, j'avais pensé à lui pourtant.
Le sexe de Ludo.
96% de quoi?
Est-ce que c'est une élection?
De sa capacité maximale.
Est-ce que c'est une élection?
Pas du tout.
Est-ce que c'est la plaque de plastique qui recouvre la mer de plastique?
Qui vient? Tu peux reposer la question, s'il te plaît.
Qui vient d'atteindre que vient d'atteindre.
Ah, j'allais dire, c'est une personne ou pas, voilà.
C'est pas une personne.
Sois précis, Freddy. Ah, oui. C'est une cause considérée comme une victoire que d'atteindre 96%, là.
Oui, c'est pas encore le maximum.
C'est poli.
Apprend-on cette semaine.
C'est un record.
100% le maximum.
C'est un record.
C'est lié à la santé.
D'autres sont à 97%, par exemple.
Répète ta question, en fait.
En marche.
Qu'est-ce qui vient d'atteindre 96%?
Qu'est-ce qui vient d'atteindre 96%?
96% de quoi? Tu veux pas me le dire?
Mais c'est à vous de trouver, poser des questions.
Est-ce que c'est lié au
le taux de d'accès à Internet
par
la population française,
la couverture 4G
et c'est Bouygues Telecom qui annonce cette semaine qu'ils atteignent les 96%.
Non, bien joué Bouygues Telecom.
Alors, Bouygues Telecom qui atteint 96% de couverture du territoire français pour la 4G et qui, comme les autres opérateurs, vise les 98%, je crois, d'ici la fin de l'année.
La preuve, c'est qu'on capte même ici maintenant.
C'est pour dire.
C'est de la population ou c'est du territoire ?
Non, on a toujours super bien capté.
La population, t'as raison.
Parce que c'est pas. Il y a quand même plein de zones blanches encore. Quoi. Oui.
Ah. On y va ?
Ouais.
Allez, fais péter. Avec ta grande antenne.
À 96%.
Invention très remarquée au concours Lépine 2018, celle de ces étudiants qui ont créé une appli. Une appli pour quoi faire ? On a beaucoup entendu parler de cette semaine.
Yuka
cette
pour regarder la composition des aliments ?
Non.
Une appli pour la flotte qui coule sur le pare-brise ?
Mais non. Il est con, lui.
Yuki pour Yuki pour les gens qui aiment bien les petits animaux.
Ah, une appli qui n'est pas encore commercialisée.
Ça n'existe pas encore. Ouais,
voilà. Pour apprendre les mathématiques, les opérations calculatrices en chantant.
Pour une utilisation très pratique.
Pour certaines personnes, oui.
D'accord.
Est-ce qu'on est concerné, nous, autour de la table ?
Non.
Est-ce que c'est pour les personnes âgées ?
Est-ce qu'un coiffeur peut stripper avec cette application ?
Pour les conducteurs automobiles ?
Non.
Pour lire un texte, on passe devant, puis ça lit un texte pour les malentendants ?
Non, mais tu t'approches vraiment là.
Une traduction, en fait. Tu vois, en dessous de ma gueule.
Répète, David.
Pour déchiffrer.
Non, on a dit que c'était pas trop.
Un Shazam.
Mais c'est déjà un truc de Shazam.
Scanne des codes en braille en fait
du braille en fait pour lire du braille avec son téléphone.
Non.
Vas-y, cherche comme ça tu fais la passe décisive.
Le kéfir.
Un doublé de Ludo.
En même temps, il veut niquer ton petit truc là, ton petit boîtier.
Ceci dit, on verra si c'est bien, si ça trouve la nappe, on aura compris.
En même temps, on a à notre table l'inventeuse du braille. En fait,
De la braille,
c'est la braille.
Je vais quand même dire pour nos auditeurs, pour ne pas boire son kéfir, Ludo l'a renversé sur la table.
C'est en fait pour traduire un texte, mais ça existe déjà. Pour traduire un texte, tu passes devant. Ouais, c'est de l'allemand, ça te le met en français.
Un traducteur automatique.
Il te lit le texte.
Tu me parles, je t'enregistre et ça me traduit. C'est une oreillette directement interne de l'oreille.
Oreillette interne.
Attends,
tu passes ton oreillette.
Je passe mon téléphone sur un texte en français.
Non.
C'est une appli qui, quand tu vas dans un pays étranger,
non.
Tu dis par exemple, je veux une passer
mon
édition.
Ta gueule.
Alors c'est quoi ? Donc du coup, ça passe dessus et ça relit. Alors ça traduit.
Ça passe dessus. Ça fait loop.
Non.
C'est pour.
Génial, incroyable.
Ça, c'est une invention.
Ils ont inventé la loupe en 2018.
Oui, mais en appli.
Connecté, tu sais.
Personne n'y avait pensé.
Est-ce qu'il y a de la reconnaissance faciale ou quelque chose comme ça ?
Ouais.
D'accord.
Il a dit faciale.
Alors, la reconnaissance faciale, c'est quand Didouille est contente.
C'est la connaissance spéciale, ça.
Christophe est atterré.
Bon. Un alcotest d'appli, par contre. Un alcotest.
Je crois qu'on va en faire un tout de suite pour Didouille. Tant pis, je vous donne la réponse.
C'est
rare, ça.
C'est une appli qui permet d'écrire avec les mouvements des yeux. Je sais pas si vous avez vu le scaphandre et le papillon, par exemple, où c'est quelqu'un qui retranscrit. Là, l'appli permettra
Stephen Hawking
d'écrire,
aussi,
par exemple.
D'accord.
Allez, on y va. Qu'est-il arrivé à Katie Holley, une américaine originaire de Floride ?
Elle s'est blessée au volley ?
Je vous avais dit que c'était trop de questions aujourd'hui.
Elle a pris froid parce qu'il paraît qu'on est cahier.
Une californienne, t'as dit ?
Une floridienne.
Une floridienne.
Floridienne. C'est le nom d'une pizza, non ?
Il y a des clitoridiennes et des floridiennes.
En fait, ça n'a aucun lien avec
alors,
la réponse.
On va dire qu'est-ce qu'elle a fait ?
Alors,
qu'est-ce qu'elle a dit ?
Qu'est-il arrivé à Cathy Olley ?
Oui.
Elle a eu un accident ?
En quelque sorte.
Ça, ça... Elle a vu un extraterrestre.
Non.
Est-ce que ça implique une interaction avec quelqu'un d'autre, un extérieur ?
Elle s'est fait bouffer par un crocodile.
Ou c'est toute seule ?
Il y a un peu des deux là.
Elle est rentrée dans le crocodile.
Attends, attends,
et
tu peux redire ce que t'as dit toi ?
Elle s'est fait prendre par un crocodile.
Est-ce qu'il y a, en fait, est-ce qu'il y a une.
Il paraît que le crocodile vient dès que tu y goûtes, c'est mort après. Hein.
J'ai dit, est-ce qu'il y a une interaction avec un élément extérieur ? Ça peut être.
Ouais, ouais, on peut dire ça.
Et puis est-ce moi j'ai dit bouffé par un crocodile.
Un animal ? Un homme ?
Un animal.
Un crocodile et il est rentré chez elle ?
Non. Arrêtez avec le crocodile.
Un serpent alors.
Non.
Est-ce qu'elle a eu mal ?
Ah oui, elle a eu mal.
Tu dis ça, elle a eu mal. La coquille.
C'est un animal domestique ou pas ?
Non.
Est-ce que l'animal
attaqué ? Elle s'est fait attaquer.
Est-ce que l'animal est entré ou il est sorti ?
Il est entré.
Il est entré.
Elle s'est fait agresser par un animal ?
Il est entré dans sa maison ou dans son corps ?
Un rat.
Dans son corps.
Elle s'est fait attaquer par un kéfir.
Ah ! Un petit poisson. C'est son hamster qui lui est rentré par le. Enfin.
Un rat.
Non. On arrive dans l'apéro du capitaine là.
Est-ce que il y a une histoire.
C'est un poisson qui est rentré dans son anus ?
Est-ce qu'il y a une histoire de ponte ? Ou est-ce que c'est. Non.
C'est un moustique qui lui est rentré dans la bouche.
Est-ce que c'est par la bouche ?
Non.
C'est par l'oreille ?
C'est par l'oreille.
C'est un insecte. Okay.
C'est un insecte.
Putain.
Il est ressorti par l'œil.
Un cloporte.
Un dolmen. Ils ont cru qu'il y avait une tumeur au cerveau et quand ils ont opéré, il y avait un nid, un essaim-guêpe dans la tronche.
Non, non, elle savait. Son mari lui a commencé à lui enlever. Mais ça a duré 9 jours cette histoire.
C'est une araignée ?
Une souris.
Non.
Est-ce que c'est un ver ? Est-ce que c'est un ver qui a enlevé une chenille ?
Non.
Un cheval ?
Alors. Un papillon.
Non.
Dis-moi, 9 jours. 9
bah,
jours
un verre.
9 jours pour retirer
et,
le truc.
Et au 9e jour, c'est l'ORL qui lui a retiré les dernières parties de cette
animal. Un tic.
Non.
Un cloporte.
Un criquet.
Non.
Un ver solitaire.
Non.
Une sauterelle.
Un scarabée.
Mais c'est un insecte.
Une écrevisse.
Non, mais tu tournes vraiment autour.
Un coléoptère.
Un cafard.
Oh putain.
Alors,
9 jours. Pourquoi 9 jours ?
Parce qu'il faut pas qu'il casse dedans.
Parce que c'est resté 9 jours.
Pourquoi tu dis enfoiré ?
Et à chaque fois, ça cassait, donc ils ont enlevé des pattes, l'arrière de l'animal, puis l'abdomen.
L'animal était vivant ou.
Et au bout de 9 jours, ils ont fini par enlever la tête.
Putain, quelle horreur.
L'animal cherchait à entrer à tout prix par le conduit auditif. On y va, dernière question, je vous demande de ne pas répondre puisque ce sont nos amis poditeurs qui vont répondre.
Elvis Presley.
Je vous rappelle, le livre à gagner pour les poditeurs s'appelle « Deux mois à Rouen », c'est le journal de résidence de Benjamin Adam qu'il avait effectué de mai à juin 2016. On y va, question poditeur. Un gérant de Franprix dans le 19e arrondissement de Paris a décidé d'interdire l'entrée de son magasin à une certaine population. De l'interdire à qui ? Voilà. C'est tout, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci Freddy.
Père Freddy, merci beaucoup.
Je te rends la place, Nico. Christophe, tu peux nous donner les scores, s'il te plaît.
Donc, évidemment, victoire de Ludo, 10 points.
Évidemment.
Arnaud, 7 points. Nico, évidemment. 4 points. Marius, 3 points. Delphine, 2 points. Christine, 1 point.
Je crois que tu as oublié ton score à nouveau.
vous le connaissez, mon score.
Putain, je ne suis pas dernier.
102 points.
C'est bien, mon Marius.
Bon,
je deviens plus intelligent chaque jour.
C'est beau.
Bon, allez.
C'est parti.
Oh! Mais qui, donc quoi?
Qui n'est Ziggy Dring?
Qui n'est Ziggy Dring? Ce n'était la pombie sa voisine.
Oui, alors bonsoir. Moi, j'ai découvert un podcast par hasard. Et puis, j'avoue que j'adore. Et j'ai vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour Didouille. Super intelligente, elle est super belle. Et puis, je voudrais lui ressembler. Je me laisse pousser les cheveux pour avoir la même coupe de cheveux. Voilà, je suis fan. Bisous.
C'est fou tous ces auditeurs.
Donc n'hésitez pas à faire comme ces auditeurs et auditrices qui nous laissent des messages. Hein.
Mais
on les passera sans aucun problème.
Cette personne a tellement
raison. Ça peut ne pas être aussi positif. Hein,
oui, ça peut.
Hein.
Mais on les passera pas. En tout cas, on arrive à la fin de notre émission. On va finir avec nos
coups de cœur
quand même. Pourquoi je parle comme ça ?
Mais oui, quand même.
C'est le kéfir.
Donc,
toi, ton coup de cœur, c'est la Gay Pride, apparemment.
Qui veut commencer? Didouille. Eh ben Didouille, si tu es prête.
Attends, je me mets un chrono. Alors, moi, je voulais vous parler d'un gros coup de cœur, parce que c'est la première fois que je les voyais en concert. Au mois d'avril, nous sommes allés au Zénith pour voir la dernière date de tournée du groupe Chaka Ponk. Et alors là, ça m'a foutu une grosse claque dans la tronche, sachez-le. Parce que, bon, j'avais un peu lâché sur les derniers albums, mais j'y suis allée parce que... Voilà.
Sur scène.
Et alors, sur scène, un show visuel, un truc, mais ce qui emporte, et vraiment un groupe qui donne une patate. Alors, c'est Sam et Frein. Frein, je pense qu'il est shooté, je sais pas comment il fait, mais il sait emporter son public. Le visuel, il était mais hyper impressionnant. J'ai passé un moment, j'ai grave kiffé. Voilà, tout ça pour vous dire que bah, écoutez-les, parce que, et si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez les voir, parce que c'est superbe comme concert. Voilà, des bises, bisous.
T'as pas dit que c'était le dernier concert ?
La dernière date de la tournée.
Terminé.
Tu te tais maintenant.
Christophe, es-tu prêt de ton côté ?
Oui.
Attention, c'est parti.
Donc moi, je vais vous parler de... du troisième album de Cascadeur. J'avais présenté ici même son premier album. Donc Cascadeur, c'est un type qui porte un casque et qui garde une certaine anonymat. Il a une espèce de voix un peu d'androgyne. Et moi, j'aime beaucoup son dernier album, 14 titres. C'est assez rare, je trouve, sur les albums d'aujourd'hui. En tout cas, il est magnifique, c'est très doux. C'est une espèce de mélodie pop électro. Voilà, je vous laisse écouter les 30 dernières secondes.
Merci Christophe.
Ludo,
oui.
C'est dans ta tête ?
Oh oui, ça va être assez court en même temps.
C'est ce que disait Didouille. Avec moi,
c'est quand tu veux.
Oui, alors moi j'ai deux choses en fait. Le retour du Burger Quiz, ça m'éclate, ça me fait marrer. Ouais. Je suis très content que l'émission reprenne, qu'il refasse un petit retour. Je me suis regardé ça et je prends toujours autant de plaisir à revoir le Shabba et son équipe. Il y avait notamment Edouard Baird qui était invité.
Ouais, c'était le premier, ouais.
C'était un vrai festival et ça m'a éclaté. Et puis, en deuxième chose, rien à voir, mais je suis en train de bouquiner Revival de Stephen King. Et j'ai grand plaisir à relire, à lire plutôt, parce que je ne le relis pas, mais en tout cas à continuer à lire cet auteur, celui-là. Et il me fait beaucoup marrer, c'est pas dans le milieu un peu de la musique et c'est très 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 rigolo. Voilà, c'est, je ne veux pas dire plus, c'est déjà très bien.
Mais il reste 20 secondes. Hein.
Mais il n'est pas obligé.
Mais je ne suis pas obligé.
Quand on
c'est une note, tu devais parler de moi.
Et mon coup de cœur aussi, c'est Marius Lenière. Marius Iuius, quoi. Voilà.
Pour les intimes.
Parce que je l'aime. Parce qu'il le vaut bien.
C'est tu peux le dire plusieurs fois, parce qu'il est 4, 3,
Marius,
2.
Je t'aime.
Non, mais c'est pas Nico.
Moi, c'est Ludo.
Lapsus révélateur.
En fait, j'ai toujours voulu être Nico. Toujours voulu être dans Nico.
Oui, bon, mais c'est pas ça. Ça va être à toi, tiens, ça t'évitera de dire des conneries.
C'est parti.
Moi, je voudrais vous parler de Brookline. Donc, Brookline, c'est un petit gars de chez nous, de Rouen. À 20 ans, il produit déjà sa propre musique électronique qu'il considère sombre, mais avec du punch et des accents hip-hop. Il a sorti son premier EP en mars 2016. Il est en préparation pour un album 11 titres qui doit sortir en septembre. Dernièrement, il a été programmé aux Inouïs du printemps de Bourges. Moi, j'ai complètement craqué. C'est une musique assez... C'est une très 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 bonne musique, sombre et qui booste pas mal. Rien à voir avec le fait que ce soit mon petit cousin. C'est la famille. Sa musique est addictive à écouter sur toutes les bonnes plateformes et je vous prédis que nous entendrons encore parler de lui le morceau que nous écoutons en ce moment, c'est Paradox.
Très bien.
Freddy, à ton tour.
Alors, moi, je vous parle de Sammy Decoster et de son album Sorti 21. Je vous parle d'un artiste qui gagne à être connu. Remarquez, on commence à en entendre parler, si vous écoutez FIP, par exemple, ou si vous lisez Les Inrock. Sammy Decoster, c'est ce dandy français qui se la joue un peu américaine. Des textes ciselés, une voix chaude, un style caméléon qui lui avait permis de faire la tournée de Valparaiso, derrière le micro. Avec une voix travaillée aussi dans les églises, visitée avec l'excellent duo Facteur Chevaux. Sammy Decoster sort un album, le deuxième, 10 ans après le premier. Une rareté qu'il convient de déguster, sur CD, mais aussi en live. Decoster est en tournée, il jouera chez nous, ou plutôt chez nos amis des copeaux numériques. Vous vous souvenez, Caroline et François, Kaléidoscope, l'épisode 39. Eh bien, il jouera là-bas, le 20 juin, mais aussi un peu partout en France. Suivez-le et prenez la même sortie que lui, la sortie 21. On écoute. Combien de temps ai-je mis pour
fond? C'est fini. Merci. C'est vachement bien, ça. Arnaud, top. À ton tour.
Donc, je voulais vous parler de X-Blié, projet du groupe nantais d'électro hip-hop Kabadzi. Particularité de leur album, les textes sont tous issus de dialogues de films de Bertrand Blier qui ont été retravaillés, croisés par eux. J'ai eu la chance de les voir le mois dernier à Canteleu en concert. La scénographie est formidable, à base de dessins projetés d'Adam Scarvalo, et dessins eux-mêmes inspirés par différents films de Blier. Et l'extrait qu'on entend là, c'est Bouche, avec des dialogues de Tenue de soirée. Qui m'inspire, ta bouche et ton cœur, c'est ma bouche qui t'aspire, ma bouche et mon cœur. On est seul, on est triste, et puis tout à coup on tombe sur quelqu'un, et c'est comme si les nuages se déchiraient. Ça s'appelle l'état de grâce, il y a du soleil, ça brille, tout ce qu'on touche se transforme en or. C'est ta bouche qui m'inspire, ta bouche et puis ton cœur, je vais te cambrioler ton cœur, et puis tout le reste. Je...
Bon,
bah. Vas-y, allons-y. Vas-y, t'as pas de son.
Et non, en plus.
Vas-y,
allez. Donc, moi, c'est un coup de cœur qui va à un jeu qui s'appelle Lumosity. Un jeu qui est disponible sur smartphone, tablette, PC, Mac, en fait, tout. Et qui offre un programme complet d'entraînement de cerveau avec plus de 25 jeux. Donc, il y a une version gratuite dans laquelle on peut jouer 3 jeux par jour. Tous les jours, en fait, on est testé sur ces jeux. Et la version payante qui donne accès à tous les jeux, tous les jours, et possibilité d'accéder à des statistiques de jeu. C'est-à-dire si tu t'es amélioré sur un jeu en particulier et comment tu te situes par rapport au reste du monde, etc. Donc, pour l'instant, je suis à la version gratuite parce que c'est 5 euros par mois. Et si tu prends, ah oui, si tu prends sur un an, et si tu prends juste un mois pour essayer, c'est 11,95 €. Donc, ça fait un peu cher. Enfin, d'autant plus que ça me suffit comme ça.
Et,
en gros, c'est un peu la version 2018 du jeu Dr. Kawashima sorti 13 ans auparavant en 2005. Mais c'est beaucoup plus ludique parce que graphiquement, c'est plus ergonomique, c'est plus sympa.
Merci Starlet.
Trop fort, elle arrive à faire ça dans une femme.
C'est vraiment sympa comme jeu. Bah, elle est géniale. Et donc à mon tour, moi je vais vous parler d'un quelque chose qui vient de sortir. Donc c'est un jeu, c'est une expérience. Ça s'appelle Nintendo Labo. C'est sorti sur la console Nintendo Switch. Donc pour beaucoup de gens, c'est ni plus ni moins que des jeux en carton. Mais c'est pas que ça en fait. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de critiques initialement quand Nintendo a présenté ça en disant oui, c'est encore un attrape-nigo, des accessoires, etc. pour des trucs en carton, 60 €, c'est super cher, etc. Sauf que c'est loin d'être que ça. On a nos enfants, nous, qui ont ça depuis un moment. Ils ont passé des heures et des heures, voire des dizaines d'heures dessus. On retrouve le côté maquette, c'est-à-dire que c'est ludique, c'est... Ils travaillent aussi la motricité, ils font beaucoup de choses et derrière ils voient ce qu'ils ont construit, ils arrivent à le mettre en perspective dans un contexte, etc. C'est vraiment quelque chose de formidable. Je trouve qu'il y a aussi toute l'ergonomie est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faudrait des notices de montage un peu partout comme ça. Le seul souci qu'on pourrait y voir, c'est que ça prend un petit peu de place. Il faut quand même pas le nier. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour, on arrive à la fin
c'était
de.
C'était vraiment formidable. Hein,
à la fin de cette émission.
Je trouvais que c'était fantastique.
Ouais, allez, sors ta cuisine, viens dire au revoir.
J'ai adoré. Hein.
Lâche fouet.
J'ai découvert le kéfir. De faire la tarte poireau camembert.
Ah, c'est ça qui sentait le kéfir.
Pourri. Très bien. Bah donc, tu reviens avec nous pour la fin de l'émission.
Bah, bien
t'inquiète
sûr.
T'inquiète pas, ça te prendra pas plus de 2 minutes. J'essaie de parler avec des phrases de Ludo.
C'est l'habitude.
Donc bah, on espère qu'on a passé un bon moment. Freddy vient de nous révéler que lui avait passé un très bon moment, qu'il avait adoré.
C'était ironique.
Nous on était contents de
te retrouver.
On était très contents de te retrouver. Ah oui. On était très contents de te retrouver, Freddy, malgré ton accoutrement vestimentaire. Mais en tout cas.
Faut pas regarder en fait. Faut pas regarder, ça va.
C'est vrai. C'est vrai. Mais y a
c'est
pas
le collier surtout.
Moi j'adore ces olives autour du cou.
Les
olives vertes.
Ouais. C'est surtout du boule de geisha qu'il a.
Et les lunettes, on se demande à quoi elles servent aussi.
Le style.
Là, c'est pour décorer.
C'est le style. Style,
décoration.
Je sais qu'on est pris en photo de tous les côtés.
C'est ça. C'est ça. C'est trop. Ça nous permet d'avoir notre notoriété sur les réseaux sociaux. Donc vous pourrez retrouver tout ce qu'on a.
J'ai chier mon Marius.
T'as passé une bonne émission aussi, non, apparemment.
C'est l'heure de l'apéro, ouais, il va, il en peut plus.
Coup, là,
il sait qu'il y a une fontaine de mojito qui l'attend.
Apparemment, ton bâillement était pas ironique.
On arrête maintenant, là, ça fait long.
Bah, on y va, justement.
Un petit peu mal au cul, là, maintenant. Donc...
En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter comme vous voulez, réseaux sociaux, le répondeur, Marius,
ouais,
t'as
le
retenu.
Répondeur, ouais, j'ai vu le petit truc pour faire le répondeur.
Faire des étoiles, les pouces, tout ce que vous voulez, comme d'habitude, sur les réseaux. On se retrouve fin juin pour un épisode. Donc le 30 juin, dans un mois, normalement, on se retrouve, puisque ça se passe chez Fred Duval, donc on n'est jamais sûr de rien quand c'est avec
Fred Duval.
C'est
le meilleur moyen, c'est quand même de le faire chez lui. Hein.
Au pire, c'est si on oublie d'y aller, quoi.
Et c'est un traquenard pour lui faire ses travaux.
Des fois qu'on ait des travaux, ouais.
Ce serait drôle, ça.
Et donc, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, Fred Duval, c'est notre célèbre non-invité, avec qui on va fêter les 3 ans de
l'homme
non-venu à notre micro.
Et qui a la gentillesse de nous inviter chez lui.
C'est le seul qui a fait ça, d'ailleurs.
Bonne condition.
Qui n'est pas venu.
Ouais, bah c'est le seul qui a joué.
En même temps, c'est le seul qui va nous inviter chez lui.
Oui, pour un barbecue en plus.
Ce serait drôle, effectivement, c'est qu'on oublie.
On va y en tout cas, on va aborder plein de sujets avec lui, parce que c'est quand même un auteur de BD très prolifique. Avec plusieurs dizaines de BD à son actif, donc ça va être très très intéressant. Et puis d'ici là, trois d'entre nous, Ludo, Marius et moi-même, allons nous rendre sur la commune de Clisson.
Oui, monsieur.
Pour aller le Hellfest tous les trois cette année. On a la chance d'avoir
possibilité. Deux d'entre nous vont se retrouver à la Gaule.
Alors nous, on risque de se retrouver avec la Gaule, probablement dans les concerts. Bah, vous, je sais pas.
Mais nous, on la donnera.
Et donc, voilà pour les aventures de l'entrepôt. Pardon, est-ce qu'ici, parmi tous les gens autour de la table, vous avez des choses à partager avec nous? Freddy, tu nous as parlé du concert que tu organises.
Oui, Samy de Coster, que je co-organise avec mes amis David Passage et des Copos Numériques. On organise le concert de Samy de Coster, mais aussi de Baptiste Hamon. Je vous encourage à venir découvrir pour la première fois dans ce lieu super dans lequel on avait enregistré une émission, le Kaléidoscope.
De
Petit Queville.
Voilà, découvrir un artiste et un lieu. Starlet, oui.
Moi, je partage des grains de kéfir. Si vous voulez, je peux vous donner des grains de kéfir et puis je vous explique comment ça marche.
Expérimentez chez vous.
Non,
faites pas les cons. Ne répondez pas à son annonce.
Le 25 mai à Amiens, Taverne électrique, Kenkyu. Oui.
C'est vrai, voilà. Si vous êtes. Parce que Kenkyu s'exporte au-delà des frontières rouennaises. Voilà.
Jusqu'au mien.
Et le 29 juin également aussi.
Exactement.
Quelle actualité débordante.
Voilà, retour à la maison.
Vous êtes des fous là.
Et puis, dernier film radio de Walter Proof.
Oui, on a aussi certains dans la breluche, comment ça s'appelle ? Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Donc,
exactement.
On est plusieurs ici, donc voilà, c'est vrai qu'on est en actualité quand même un petit peu.
Un peu
Arnaud, toi d'ailleurs, as-tu quelque chose prochainement?
Ton épisode sera pas fini de monter, je pense, ça dépend quand tu le montes, mais on rejoue La Poison avec la troupe de Saint-Martin de Vaucherville à Lillebonne.
Quand?
Le 12 mai.
Lillebonne.
À Lillebonne.
Le 12 mai à 20h.
Le 12 mai, donc c'est samedi prochain.
Au centre Julio Bonnat ou non?
Mais il aura fini
là où
de monter.
À côté de l'hôpital.
Oui, c'est une machine, c'est une
machine même. Et bien voilà, on va pas s'éterniser plus que ça. Hein,
Et bien voilà.
Oui, Ludo. Oui, un site internet.
Non, c'est loin. Le 26 juin à l'Omnia, il était une fois dans l'Ouest. Alors je le dis parce qu'en fait, ils projettent ça. Et comme on a la prochaine, c'est le 29 juin ou le 30. Donc,
tu as raison.
Ça va être chouette ça.
Et puis pas notre actu à nous, mais dans l'intervalle, effectivement, il y aura deux actus de nos anciens invités. Il y a Gaëdic Chambrier qui joue à la Garo Musique à Louviers le 15 juin. Et Xavier Feugret à son album qui sort le 16 juin. 15 ou 16 juin, parce qu'il a été un petit peu décalé. Et surtout, il fait le 25 mai une dédicace de dessin inspiré de son album Grand Turnover au collectif d'en face, rue Beauvoisine.
À Rouen.
Très bien. Bah, quelle actualité, hein, dis donc.
Xavier qui joue désormais sous le nom de Forêt. Oui,
oui.
F-O-R.
Ça, il faut le préciser, effectivement.
Nord de Grande Forêt. Nord de Grande Forêt.
On l'a mis sur les réseaux, mais pour les gens qui
ne savent pas. Et c'est important de le préciser parce que.
F-O-R-A-Y, ouais. Ex-Nord.
Voilà, voilà, les petites news.
Comme on défait les carrières.
Finir sur une note positive, effectivement.
On a défait celle de Freddy, apparemment.
On a surtout défait celle de Hebdo.
Ah oui, oui. Donc,
nouvelle hebdomadaire. Là,
Bon, bah écoute, hein, peux pas tout réussir non plus dans la vie. Hein, voilà, il y a quelques échecs.
Bah, Hebdo, il est sorti une semaine.
Donc bah, c'est le moment de se quitter.
On n'arrive pas à se dire au revoir.
Et est, voilà, c'est ça, c'est dur
de conclure.
C'est exactement ça.
Donc,
pour couper court, qu'est-ce qu'on dit pour terminer en général?
Allez, allez,
bisous, bisous.
Il y a un petit son normalement.
Tu as un petit son?
Oui, je veux. Oui.
Alors, ah
celui
oui,
Didouille, c'était.
Vous êtes prêts?
Je peux pas me concentrer. Là.
Parce que là, t'es arrivé avec un petit livret là, ouais.
Ouais, en fait, c'est la version. Cette petite box, c'est la version luxe à 30 euros. Hein, 30 ou 32.
Monsieur,
ouais,
tout moyens, ça pour dire qu'il y a du fric. Ah,
ouais. Non, justement, je trouve qu'elle est pas chère du tout. C'est fabriqué en France par des copains à eux. Non, des copains à eux, c'est une imprimerie nantaise. Et t'as à la fois ce qu'ils ont retravaillé, enfin voilà, leur travail. Alors, et puis derrière, une illustration de chaque chanson. Sous forme de,
oui, oui,
de reprographie. De reprographie
C'est pas toi qui as tout griffonné là, comme ça.
Et ils mélangent en fait différents,
différents films.
Films dans les
c'est ça, ils ont croisé. Ouais, exactement.
Je savais pas qu'on avait deux minutes chacun.
Non, mais ça ils les passeront au montage. Ça, c'est
voilà,
il y a des préférences, super, c'est tout. Voilà, voilà. Favoritisme, favoritisme.
Ben, Starlette, aujourd'hui, oui.
T'as mis tes 5 minutes
bon, moi, je veux pas tenir 5 minutes. Hein.
Ah, Nico non plus.
Je me fais toute seule.
Vas-y.
En fait.
Je me fais toute seule. Écoute. Aïe, aïe, aïe.